Europe 1, le grand journal du soir. 18h-20h, Chloé Triomphe.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Adèle, bienvenue sur Europe 1 pour ces deux heures que l'on va passer ensemble à essayer d'écouter et de raconter le monde changé. À la une ce soir, le plan de relance de l'économie repoussé d'une semaine par le gouvernement, des tags révisionnistes à Oradour-sur-Glane au lieu de mémoire qui soulève l'indignation et le jour du dépassement humain des ressources de la planète qui recule pour une fois cette année. On reviendra aussi sur les aveux circonstanciés de Monique Olivier hier devant la juge sur l'enlèvement et le meurtre d'Estelle Mouzin en 2003, comment la complice du tueur en série a fini par lâcher la vérité après des années de silence. Pour en parler, Corinne Herman, l'une des deux avocates du père d'Estelle Mouzin, sera notre invitée. À suivre aussi, les derniers conseils lecture de l'été, une balade en France qui nous emmènera en Alsace et côté musique, les coulisses de fabrication d'un tube d'été, Lucie de Pascal Obispo, ce sera avec Fabien Lecoeuvre un peu avant 19h. Et puis, dans la série Initiative, juste après 19h30, la chasse au bruit. Voilà une partie du programme des deux à venir. On est ensemble jusqu'à 20h sur Europe 1. Merci de votre fidélité. Mais d'abord, c'est l'actualité et le journal de Florence Cohen. Bonsoir Florence.
Bonsoir Chloé, bonsoir à tous.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
La volonté est de se concentrer sur la rentrée scolaire et notamment en termes sanitaires. Si le plan est prêt, pourquoi ne pas l'annoncer maintenant ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'important, c'est son contenu.
Le plan de relance post-Covid du gouvernement, ajourné d'une semaine, il est prêt. Mais il faut d'abord s'occuper de l'urgence sanitaire, dit l'exécutif.
Tout faire pour retrouver les auteurs des tags négationnistes d'Oradour-sur-Glane, c'est la volonté d'Emmanuel Macron, car le choc est immense sur ce site martyr de la Seconde Guerre mondiale.
Au niveau de l'entrée, en fait, village martyr a été tagué au profit de menteurs, donc comme si le village mentait, comme si l'histoire était fausse, alors que tout cela est avéré malheureusement.
Pas la moindre voiture demain soir sur les Champs-Élysées pendant la finale PSG-Bayern. Seulement des piétons pour maintenir le maximum de distanciation sociale. Et pendant ce temps, les Parisiens et Marco Verratti s'entraînent à Lisbonne.
J'ai commencé maintenant avec les groupes. Et bien sûr, j'essaie de tout pour être dans les matchs. C'est pour ça que je continue à travailler, pour arriver dans la meilleure forme possible.
C'est la journée du dépassement. Nous avons épuisé les ressources que la Terre peut nous offrir cette année. Et encore, le Covid a retardé l'échéance.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les entreprises les plus frappées par la crise du Covid devront encore attendre. Le plan de relance à 100 milliards d'euros qui devra être dévoilé mardi prochain prend du retard. Son annonce est repoussée d'une semaine. Pourtant, le gouvernement assure que les mesures sont prêtes. Alors, qu'est-ce qui explique ce délai, Frédéric Michel ?
Ce report, c'est directement l'Élysée qui l'a décidé. L'annonce prévue mardi est donc repoussée au Conseil des ministres de la semaine suivante, début septembre. Au sommet de l'État, on préfère temporiser. La semaine qui vient s'annonce déjà très chargée sur les questions sanitaires, avec aussi la rentrée qui se profile. Et alors qu'une partie de la population s'inquiète d'une possible deuxième vague de la Covid-19. Pas question donc de se louper, de tirer dans tous les sens au risque d'être confus dans la communication. Mais ce report étonne. Le plan de relance, chiffré à 100 milliards d'euros, est prêt. Cela fait des mois que l'exécutif travaille dessus et les différentes collectivités, régions, municipalités attendent beaucoup de cette relance. Agnès Lebrun est porte-parole et vice-présidente de l'Association des maires de France.
Déçu, il s'agit d'une question de contenu. Et patience, il s'agit d'une question de communication. La volonté est de se concentrer sur la rentrée scolaire et notamment en termes sanitaires. Pourquoi pas ? Maintenant, si le plan est prêt, pourquoi ne pas l'annoncer maintenant ? Bon, c'est une vraie question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'important, c'est son contenu.
Pendant la crise, les collectivités ont dépensé et perdu beaucoup d'argent. Elles attendent donc des compensations financières et un accompagnement pour éviter d'être à genoux financièrement. Le souhait, c'est davantage d'autonomie et de décentralisation. Malgré ce report, l'entourage du Premier ministre précise et assure que le calendrier du plan de relance est maintenu.
Le nombre de cas de coronavirus augmente tous les jours en France, mais le nombre d'hospitalisations reste modéré. Le masque est obligatoire depuis ce matin dans une partie du centre-ville de Lyon.
Tout sera fait pour que les auteurs des tags d'Oradour-sur-Glane soient traduits en justice. C'est la promesse d'Emmanuel Macron.
Des tags révisionnistes ont été découverts dans ce village martyr de la Seconde Guerre mondiale. 642 hommes, femmes et enfants y avaient été fusillés ou brûlés vifs par les nazis.
Une plainte est déposée et le choc est immense, notamment celui de Fabrice Escure. Le président du Centre de mémoire d'Oradour décrit les actes de vandalisme.
Au niveau de l'entrée, en fait, village martyr, martyr a été tagué au profit de menteur, donc comme si le village mentait, comme si l'histoire était fausse, alors que bien sûr tout cela est avéré malheureusement. C'est intolérable de voir un tel acte. C'est un acte qui est odieux, qui est lâche. C'est une insulte qui est faite à la mémoire du village, à la mémoire des familles. Moi, je le prends vraiment comme une agression contre le centre, contre le village et l'histoire de notre territoire. On veut que cette enquête puisse aboutir. Il faut absolument que les auteurs soient dénoncés. On ne peut pas cautionner ça, on ne peut pas accepter de voir ça à Oradour. On ne peut pas d'ailleurs l'accepter partout ailleurs où des drames se sont produits. Voilà, aujourd'hui, on a des sentiments vraiment de colère, mais ce qui est sûr, c'est que nous continuerons notre travail pour défendre le devoir de mémoire.
Le président du centre de mémoire d'Oradour-sur-Glane. À l'étranger, 4 soldats maliens tués et un autre grièvement blessé par un engin explosif au passage de leur véhicule dans le centre du Mali. Une tuerie alors que le président malien vient d'être démissionné par les militaires sur fond d'offensive djihadiste.
L'opposant russe Alexei Navalny est toujours dans un état stable.
Il est à présent soigné à Berlin après avoir quitté un hôpital de Sibérie. Il a été pris d'un malaise dans un avion avant-hier. Un empoisonnement, selon ses proches. Simple hypoglycémie, répondent les autorités russes.
18h06 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Chloé Triomphe, Florence Cohen.
Dans 24 heures, la France du football sera fébrile. Pas malade du coronavirus, non. Juste supportrice du Paris Saint-Germain et pleine d'espoir pour une victoire face au Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions.
Ouais, mais attention, il faudra éviter les débordements et les contaminations au coronavirus. Voilà pourquoi les autorités prennent des mesures très fortes, Johanna Chabas, notamment à Paris.
Oui, les Champs-Élysées seront entièrement piétons demain soir à partir de 21h pour que tout le monde puisse remplir l'espace en respectant la distanciation sociale. Le masque sera également obligatoire dans un périmètre plus étendu autour de l'avenue et le ministre de l'Intérieur promet une verbalisation systématique des contrevenants. 3000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans la zone, mais aussi près du Parc des Princes, stade du PSG, qui accueillera 5000 supporters pour une retransmission de la rencontre. Mais les fans auront peu de temps pour célébrer ou pleurer. 2 heures après la fin de la finale, le rassemblement sera totalement interdit et les forces de l'ordre procéderont à des évacuations. L'idée est d'éviter le plus possible les débordements, comme on a pu les voir à Lyon ou à Paris lors des matchs précédents. D'ailleurs, à Marseille, avec son club historiquement concurrent du PSG, les autres autorités s'organisent aussi. Elles conseillent aux supporters parisiens de ne pas porter de signes ostentatoires et de faire preuve de modération dans leurs célébrations pour ne pas être prises à partie. La préfecture des Bouches-du-Rhône voulait même un temps interdire le port du maillot du PSG dans les rues marseillaises. Face au tollé provoqué par cet arrêt, elle a fini par revenir sur sa décision.
Merci Johanna. Alors côté sport à présent, le PSG joue demain sa première finale dans la plus prestigieuse des coupes européennes.
Le match contre le Bayern sera bien sûr à suivre en intégralité sur Europe 1, ce sera à partir de 21h.
Alors Julien Froment, vous êtes au Stade de Luz à Lisbonne où se déroulera la rencontre. Le PSG n'a plus qu'une marche pour entrer dans la légende et un ultime entraînement.
Exactement, dernier entraînement à 20h heure française. D'ici là, ce seront Thomas Tuchel et Kylian Mbappé qui se présenteront devant la presse. L'entraîneur parisien qui devrait confirmer un groupe au grand complet, ce qui est assez rare pour être souligné. Et l'excellente nouvelle, Florence, c'est que Marco Verratti, le milieu de terrain italien, est remis de sa blessure au mollet. Il postule même à une place de titulaire.
J'ai recommencé doucement avec l'équipe. C'était une blessure que c'était un peu dur à gérer parce que il est venu en façon un peu étrange. On prend beaucoup de coups. Cette fois, ça me fait vraiment mal. Mais j'ai recommencé maintenant avec les groupes. Et bien sûr, j'essaie de tout pour être dans les matchs. Déjà, j'étais disponible pour les matchs de demi-finale. C'est pour ça que je continue à travailler, de faire des thérapies pour arriver dans la meilleure forme possible.
Une seule incertitude réside finalement, c'est l'identité du gardien de but. Le titulaire habituel, le costaricain Keylor Navas, a repris l'entraînement collectif hier. Mais est-ce suffisant pour débuter une Ligue des Champions? Ce serait sa 4e finale, puisqu'il l'a déjà gagné à 3 reprises avec le Real Madrid. Eh bien, on aura des éléments de réponse tout à l'heure, donc à 20h. Et puis l'entraînement à 20h45, qui sera à suivre en partie dans Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau.
On suivra. Merci beaucoup Julien Froment en direct de Lisbonne pour Europe 1. Et n'oublions pas la première journée de Ligue 1 dans tout ça. Certes, tronquée. Mais avec ce soir Dijon, Angers et puis Lille-Rennes, le match Nîmes-Brest de demain est finalement maintenu malgré les cas de Covid décelés dans le club gardois.
Le coronavirus qui, paradoxalement, rend service à la Terre. Il vient de retarder de 3 semaines le fameux jour du dépassement.
Et c'est aujourd'hui, 22 août. Nous avons épuisé toutes les ressources que la Terre peut nous offrir pour cette année 2020. Et nous vivons maintenant à crédit. Pour le climatologue Philippe Clay, ce décalage de 3 semaines doit nous servir d'électrochoc.
La leçon principale, c'est qu'en fait, il ne faut pas compter sur les pandémies pour réduire les émissions de CO2. Il faut une transformation plus structurelle, finalement, des systèmes de production et de consommation de l'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant la période de confinement, en fait, les émissions liées aux combustibles fossiles ont fortement baissé, mais la production d'électricité qui est liée aux renouvelables, au contraire, elle a continué à rester forte. Et donc, c'est quand même un exemple, finalement, bien qu'involontaire, de transition possible. Donc vraiment, le défi, finalement, c'est dans le chemin qui est encore devant nous, c'est-à-dire profiter de l'opportunité des investissements très importants qui vont être faits pour redynamiser toutes les économies dans chaque pays, pour aller vers une transition plus verte qu'avant, qui va permettre à ce jour du dépassement, finalement, d'être reculé au fil du temps.
Propos recueillis par François Villemain. Et la pollution sur la route des vacances n'a rien arrangé à l'état de notre bonne vieille terre. Plus de 600 km de bouchons au plus fort de la journée ce samedi est classé rouge dans le sens des retours. Enfin, sachez qu'en pleine saison touristique, des quartiers de Saint-Tropez et de Ramatuel sont privés d'eau potable après une rupture de canalisation. C'est le 3e incident de ce genre depuis le début de l'été.
Oui, c'était le journal de Florence Cohen. À demain, Florence.
À demain.
La météo avec Cdiscount. Cet été, même en vacances, Cdiscount livre tout ce dont vous avez besoin, partout où vous êtes. Profitez de votre été avec Cdiscount.
La météo avec un temps assez mitigé, Valérie Darmon.
Et bien des pays de la Loire aux Ardennes, en passant par le bassin parisien et les pays de la Loire, nuages et éclaircies se partagent le ciel dans un ciel variable, par moments assez menaçant sous des températures de saison. Du bassin aquitain au Poitou, à l'Alsace et au Jura, en passant par le massif central jusqu'aux Alpes. Après les nuages bas du matin, les éclaircies vont s'imposer. De la Bretagne à la Normandie et Hauts-de-France, le ciel est chargé de cumulus accompagnés de quelques averses et d'un vent toujours sensible. Du Roussillon à la moyenne vallée du Rhône jusqu'au sud des Alpes, et en Provence, la Côte d'Azur, la Corse. Le soleil est généreux malgré le développement nuageux sur les Alpes-Maritimes et le relief corse, contrairement à ce samedi. Et puis Mistral et Tramontane soufflent assez fortement, jusqu'à 80 km/h en rafale. Les températures, elles sont en baisse légère. Je vous en dis plus tout à l'heure.
Merci Valérie Darmon et on vous retrouve un petit peu avant 18h30 pour la météo des plages. Tout de suite, notre invitée pour parler d'Estelle Mouzin. Bonsoir Corinne Herman, vous êtes l'une des deux avocates du père d'Estelle Mouzin aux côtés de Didier Seban.
Bonsoir.
Alors, ces aveux précis hier de la part de Monique Olivier sur les faits commis par Michel Fourniret, cela fait des années que vous les attendez. Vous avez, vous, toujours été convaincue de l'implication de Michel Fourniret dans la disparition d'Estelle Mouzin depuis 2003?
Oui, on était convaincus, surtout depuis 2006 où on a été saisi du dossier Estelle Mouzin, et parce qu'on avait été saisi d'autres dossiers qui concernaient Michel Fourniret, on trouvait que dans le dossier, on avait des éléments qui devaient être investigués et qui nous mettaient sur cette piste-là. Donc oui, depuis 2006, on pensait que c'était probablement eux qui avaient commis les faits. Après, il y a tout un chemin d'instruction, de vérification, d'expertise à mener. Et enfin, après de nombreux mensonges, après de nombreuses tergiversations, on a Monique Olivier qui nous donne une partie du scénario qui nous manquait. Et ça, c'est très important.
Alors, on est en 2020. Comment est-ce qu'on fait parler quelqu'un? Comment Monique Olivier parle aujourd'hui après avoir retenu aussi longtemps autant de secrets? Quel est le processus?
Le processus, c'est la relation avec un juge d'instruction, je dirais, en qui elle a, je pense, confiance. C'est aussi, je pense, la relation avec son conseil en qui elle a confiance. Mais c'est un travail du juge d'instruction avec sa greffière, avec la section de recherche de Dijon, c'est-à-dire les gendarmes de Dijon. Tout un travail qui a été mis en place aussi avec l'IRCGN, avec des analyses criminelles. Toute une connaissance qu'elle a pu acquérir concernant leur déclaration à tous les deux, leur passé, l'ensemble des crimes qu'ils ont commis. Et puis, ça a commencé dans le dossier Joanna Parisch et Marie-Angèle Domèche, deux dossiers qu'elle avait nié à un moment et qu'elle a fini par réavouer devant cette juge d'instruction. Et je pense qu'au fil des interrogatoires, au fil du temps, depuis 3 ans qu'elle les interroge, une confiance est mise en place et elle avait décidé, d'ailleurs Monique Olivier nous a dit en 2019, qu'elle ne refuserait de parler à d'autres juges d'instruction, qu'elle ne parlerait qu'à cette juge-là.
Et donc, cette juge-là, elle s'est préparée de façon particulière. Enfin, c'est compliqué de nouer un rapport avec Monique Olivier qui peut être taciturne et Michel Fourniret qu'on sait absolument manipulateur. Comment est-ce qu'elle s'est préparée?
Alors d'abord, c'est une professionnelle de l'instruction. Elle a l'habitude d'interroger.
Mais ça n'a pas suffi jusqu'ici.
Non, parce qu'on n'a pas écouté, si vous voulez, ce qu'on disait avec Didier Seban, qui était de lire toutes leurs déclarations et de tirer de leurs déclarations et des dossiers les indices qu'on pouvait avoir. On ne pouvait les interroger qu'à partir d'indices. Et elle a donc réuni tous ces indices-là et elle a eu cette psychologie les concernant. Il faut bien penser que quand on les interroge, il faut mettre de côté peut-être ses sentiments, ce qu'on ressent par rapport à de telles personnes. Mais voilà, elle a mis ça de côté. Elle a une certaine douceur, elle a une façon de lui parler qu'elle entend. Et donc, elle a eu envie de parler à cette juge d'instruction, mais aussi parce qu'il y avait des éléments, parce que cette juge lui a montré qu'elle avait les éléments. C'est évidemment jamais trop tard et très important pour la famille d'Estelle.
C'est-à-dire il faut à la fois avoir des éléments en tête et à la fois savoir prendre le temps, quitte à parler d'autre chose.
Il faut penser à parler d'autre chose, il faut nouer une relation. Hein. Ce sont des interrogatoires qui sont assez rares, puisque vous avez vu qu'ils ont duré plus de 3 jours. Ça n'est pas la première fois. Elle les interroge depuis 2018. Elle les a interrogés régulièrement tous les mois sur d'autres dossiers aussi. Donc il y a une relation qui s'est mise en place. Et je pense que le secret, il est là aussi. Il est dans le fait que d'abord, il faut connaître absolument toutes leurs déclarations. Ça, c'est indispensable. C'est un très gros travail, puisqu'ils sont interrogés depuis 2003 dans plusieurs dossiers. Il y a eu plusieurs cours d'assises. Mais il faut aussi connaître leur psychologie, connaître leurs difficultés en détention. Voilà, c'est tout un travail d'humanité, je dirais, d'humanité et technique aussi en tant que juge d'instruction qui fait le résultat aujourd'hui.
Un travail très complexe. Donc, quelle est la prochaine étape désormais? Il faut faire parler Michel Fourniret pour savoir où est-ce qu'il a déposé le corps d'Estelle Mouzin?
Alors, je ne dirais pas il faut faire parler parce qu'il nous dira ce qu'il voudra bien nous dire. Mais en tous les cas, je pense qu'elle va l'interroger. Je pense qu'il y aura aussi un retour sur les lieux, qu'il y aura des reconstitutions, qu'il y aura d'autres fouilles. Mais dans un premier temps, elle va l'interroger. Elle a aussi noué une relation, je dirais peut-être pas de confiance, mais en tout cas une relation avec Michel Fourniret depuis 3 ans. Elle arrive à échanger avec lui. Il lui dira ce qu'il veut bien lui dire à sa façon à lui. Donc, est-ce qu'il aura envie de nous aider? Est-ce qu'il n'aura pas envie? On va le savoir très vite.
Vous y croyez?
Moi, je ne peux pas fonctionner comme ça. Sinon, je crois en tous les cas qu'on trouvera Estelle. Je l'espère en tout cas pour sa famille. J'espère que cette magistrate et que collectivement, on va pouvoir rendre à sa famille Estelle, le corps d'Estelle. J'y crois, même si Michel Fourniret ne nous dit pas où est le corps, je pense qu'on a encore des choses à vérifier, qu'il y a beaucoup d'éléments au dossier, que Monique Olivier peut encore nous aider à sa façon. Donc moi, je crois qu'au bout du compte, j'espère en tous les cas, pour la famille, qu'on trouvera Estelle, oui.
Alors, qu'est-ce que ça dit des affaires que l'on croit comme ça trop anciennes? Ça veut dire qu'il faut toujours garder un espoir dans la persévérance de la justice, éventuellement dans les techniques aussi d'investigation qui progressent, les progrès scientifiques. Vous accompagnez aussi beaucoup d'autres familles de cas comme ça très anciens.
Oui, tout à fait. D'abord, il ne faut pas perdre l'espoir. Vous parliez d'espoir tout à l'heure. Effectivement, on a toujours l'espoir de résoudre une affaire. On le sait très vite quand une affaire peut encore être travaillée, je dirais, parce que c'est évidemment des connaissances techniques, mais voilà, il faut que les familles continuent à combattre tant qu'elles n'ont pas la vérité et qu'elles continuent à combattre cette justice qui ne veut pas leur répondre parfois ou qui considère qu'elle a tout fait à tort, puisque quand on n'a pas trouvé la vérité, c'est qu'on n'a pas tout fait, c'est qu'on n'a pas tout tenté. Et c'est vrai que sur ce point-là, donc moi je trouve qu'il n'y a pas de dossier trop ancien en tous les cas pour les 30 dernières années. On voit qu'on peut sortir des dossiers. L'année dernière, on a encore sorti un dossier qui avait 36 ans. L'auteur des faits n'était pas si vieux, il avait plus de 55 ans, moins de 60 ans. Il était encore en état de nuire à la société. Et donc, on se rend compte que sur des dossiers qui ont 30 ans, on arrête des personnes qui ont 50, 60 ans et qui sont encore dangereuses. Donc, il faut aussi dire ça à la justice. Il faut lui dire qu'elle a encore la responsabilité de nous protéger de certains auteurs. Les nouvelles techniques et les nouvelles techniques...
Oui, les progrès de l'ADN, par exemple.
Voilà. L'ADN, mais il y a d'autres techniques aussi, nous aident beaucoup. Alors, il y a aujourd'hui de nouvelles techniques d'analyse, il y a de nouveaux tests, il y a la parentalité. Dans le cas d'Estelle Mouzin, ce n'est pas forcément des nouvelles techniques qui ont été employées, c'est le fait qu'on n'avait pas exploré un certain nombre de scellés ou qu'on n'avait pas réexploré un certain nombre de scellés. Ça, c'est un petit peu le drame qu'on a dans ces vieux dossiers. Mais c'est vrai aussi que les nouvelles techniques d'analyse génétique par la parentalité, par il y a d'autres aujourd'hui, d'autres techniques, on peut même faire établir des portraits robots génétiques. Voilà, on va vers de nouvelles techniques encore et il ne faut pas abandonner ces dossiers parce que ces techniques peuvent nous aider.
Et si on revient vraiment sur le cas d'Estelle Mouzin, si Michel Fourniret ne veut pas aider la justice, il ne collabore pas?
Alors, pour être très clair quand même, il a été mis en examen en novembre, il a donné de premiers éléments, et il a donné de nouveaux éléments.
Il a la mémoire qui flanche un petit peu, on ne sait pas exactement quelle est la part de manipulation et la part de dégénérescence.
Alors, je pense que collectivement on est sérieux et qu'on sait quand il nous ment et quand il nous ment pas sur certains éléments. De toute façon, il faut vérifier tout ce qu'il dit. Il perd un peu la mémoire, mais la mémoire immédiate et pas la mémoire ancienne. Et croyez-moi, il n'a pas oublié l'affaire Estelle Mouzin, croyez-moi. C'est une de ses dernières affaires, il s'en rappelle très bien. Il nous donnera ce qu'il veut bien nous donner. Il peut avoir oublié des petits tronçons, des petites parties du scénario ou mélanger avec d'autres victimes, ce qui lui est déjà arrivé, mais il se souvient. Bon, après, je vous rappelle qu'il avait écrit une lettre en 2007 où il avait revendiqué les faits. Il a été interrogé plusieurs fois, où il a quand même donné des indices. On connaît son parcours, on sait où il vivait, on sait quel est son mode opératoire, on connaît ses habitudes. S'il nous donne quelques indications, je pense qu'on aura une chance.
Vous pensez que la justice y parviendra. Merci Corinne Herman pour votre persévérance. Merci d'avoir été en direct avec nous ce soir sur Europe 1.
Merci à vous.
Vous écoutez le grand journal du soir de l'été avec Chloé Triomphe sur Europe 1. Et dans un instant, le conseil lecture de Victor Dolande avec un livre de Michel Bussy. A tout de suite. Et jusqu'à 20h, votre grand journal du soir, Chloé Triomphe, avec comme chaque week-end des conseils lecture.
On retrouve à présent le conseil littéraire du jour, un livre fait pour vos vacances tardives, mais pour vos vacances quand même. Bonsoir Victor Dolande.
Bonsoir Chloé.
Alors aujourd'hui, votre choix, c'est un roman de Michel Bussy intitulé « J'ai dû rêver trop fort ».
Oui, avec cette question qui nous taraude tout au long du livre. Et si les plus belles histoires d'amour ne mouraient jamais? Nati est hôtesse de l'air, mariée, 53 ans, mère de deux filles, confortablement installée dans sa vie de famille. En somme, lorsqu'elle reçoit son planning pour le mois suivant, Montréal, Los Angeles, Jakarta, il y a comme une coïncidence. Elle se rend compte que c'est exactement les mêmes vols, le même parcours qu'elle avait fait il y a 20 ans, en 1999. Et c'est sur le vol la menant à Montréal qu'elle avait fait la rencontre d'Ilian, un musicien. Une rencontre, un coup de foudre d'une vieille époque, et les coïncidences vont se multiplier. L'équipage est exactement le même, comme si toutes ces ressemblances avec le passé voulaient dire quelque chose. Michel Bussy a innové pour son 12e roman.
J'avais depuis longtemps envie d'écrire un roman d'amour, sachant qu'on m'attendait plutôt sur le registre du thriller. Et c'est vrai que je m'étais dit, ce qui serait absolument extraordinaire, c'est de mêler l'émotion d'une histoire comme Sur la route de Madison avec un vrai thriller et un vrai suspense. Et je pensais que c'était impossible de relier les deux, jusqu'à ce que c'est ce pitch sur les coïncidences. Et je me suis dit, oui, la coïncidence est à la fois quelque chose de très romantique, l'idée de ne pas arriver à oublier un amour, et ça peut devenir quelque chose d'assez étrange, voire surnaturel, dans une vraie intrigue de thriller, si ces coïncidences deviennent à ce point incroyables qu'elles ne puissent pas être expliquées rationnellement, et pourtant le mystère doit s'expliquer.
Dans un jeu de miroir assez bluffant entre 1999 et 2019, Michel Bussy nous fait voyager Montréal, San Diego, Barcelone, Jakarta, quatre villes pour un roman que vous n'arriverez pas à lâcher car l'intrigue est, comme toujours avec cet écrivain, très très bien tenue.
Alors si j'ai bien compris, c'est un roman entre amour et thriller, donc. Et Victor, c'est aussi apparemment un roman qui est moderne.
Oui, tout à fait. La plupart du temps, quand on lit un livre où le héros se pose des questions sur le sens de sa vie, de son couple, c'est un homme, assez banalement, il va rencontrer une femme et va devoir choisir. Cette fois-ci, Michel Bussy a tout simplement voulu inverser les rôles.
Je voulais aussi une histoire d'amour relativement moderne où finalement c'est la femme qui part, c'est la femme qui a besoin de cette liberté et c'est l'homme qui est un peu casanier et ce mari Olivier qui reste avec les enfants. Et donc ça me permettait finalement d'inverser les rôles par rapport aux grandes histoires romantiques où c'est généralement l'homme qui est volage, qui hésite entre la liberté et son foyer. Là, je voulais vraiment faire l'inverse, ce qui me semble quelque chose d'assez actuel et moderne.
Si vous ne connaissez pas les quatre villes qui servent de décor à son roman, Montréal, San Diego, Barcelone et Jakarta, vous aurez vraiment l'impression de les découvrir. Michel Bussy m'a d'ailleurs confié sa technique. Il écrit l'intrigue, finalise son roman et ce n'est qu'à la fin où il vient compléter les descriptions à la façon d'un metteur en scène. Enfin, un dernier mot sur le titre de son roman, « J'ai dû rêver trop fort », très joli clin d'œil aux paroles de la chanson d'Alain Bachung, « Vertige de l'amour ».
Donc on rappelle le titre de votre conseil lecture du jour, Victor, « J'ai dû rêver trop fort » de Michel Bussy, c'est aux éditions Pocket. Merci, à demain Victor Dolan.
À demain Chloé.
18h25 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Chloé Triomphe.
Et on fait le point sur les routes avec vous, Marion Gauthier. Bah, comme prévu, ça coince un petit peu.
Ouais, il fallait prendre son mal en patience à la mi-journée particulièrement. Bison Futé a relevé 646 km de bouchons cumulés. Certains automobilistes malchanceux ont passé plus de 3 heures sur la 7 entre Orange et Lyon. La vallée du Rhône qui est restée tout l'après-midi dans le rouge. Actuellement, il y a toujours 40 km d'embouteillage entre Avignon et Valence. Alors ce sont principalement des retours en vacances, évidemment, en direction de l'Île-de-France et du Nord. En ce moment, quelques sillons orange se dessinent très nettement sur la carte. Trafic ralenti sur l'A10 depuis Bordeaux ou l'A11 depuis Angers. Ça, c'était pour la côte atlantique. Et dans le centre, vous appuyez également sur la pédale de frein, sur la 71 depuis Clermont-Ferrand et sur l'A6 depuis Lyon encore. Et si vous restez dans le sud, vous n'êtes pas épargné. Préparez-vous à quelques ralentissements dans le secteur de Toulouse jusqu'à la Méditerranée.
Voilà, donc toujours patience, patience au volant. Merci Marion Gauthier. La météo des plages, ça va s'arranger un tout petit peu, Valérie Darmon.
Et on commence par la façade atlantique avec moins de pluie que ce samedi, une tendance donc à l'amélioration à l'image de la France avec toujours un océan relativement calme entre 19 dans le Finistère sud et 24 sur la côte basque et une moyenne de 23 degrés sur vos plages atlantiques. Moins de pluie aussi dans le ciel de la Manche et de la mer du Nord avec des valeurs aux alentours de 20 degrés d'un bout à l'autre et une température de l'eau pour la baignade pour les plus courageux entre 18 dans le Cotentin et 21 en baie du Mont-Saint-Michel. C'est toujours ensoleillé, mais plus ou moins cette fois entre les Alpes-Maritimes et le Var, avec des valeurs aux alentours de 32 degrés pour la Méditerranée, et une eau qui s'agite à cause du Mistral et de la Tramontane entre 23 et 26.
Merci Valérie Darmon.
Et votre grand journal du soir se poursuit dans un instant avec vous, Chloé Triomphe, et direction Monaco avec notre balade en France du soir à la découverte des trésors méconnus de nos régions. Restez à l'écoute. Jusqu'à 20h, vous écoutez le grand journal du soir avec Chloé Triomphe.
Et tout de suite, le point sur l'essentiel de l'actualité avec vous, Élise Dangean. Bonsoir.
Bonsoir. C'est une première depuis le mois de mai. L'Italie vient de dépasser la barre des 1000 cas de coronavirus par jour parmi les régions les plus touchées. Celle de Rome, qui enregistre en 24 heures un nombre record de nouveaux cas, en majorité liés à des retours de vacances. Dans le monde, la pandémie a tué plus de 800 000 personnes. En France, la situation est aussi à la dégradation. Avec plus de 4500 cas en 24 heures, résultat, le gouvernement repousse la présentation de son plan de relance. Objectif affiché, rester concentré sur l'organisation de la rentrée. Un conseil de défense se tiendra mardi. Le calendrier de ce plan de 100 milliards d'euros reste toutefois maintenu. Indignation générale après des tags révisionnistes à Oradour-sur-Glane, village martyr de la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Macron a promis que tout sera fait pour retrouver les auteurs. Une enquête est en cours. Et puis c'est un dispositif exceptionnel, normalement réservé aux soirées du Nouvel An. L'avenue des Champs-Élysées sera fermée aux voitures demain soir pour la finale de Ligue des Champions qui opposera le Bayern Munich au PSG. Objectif, laisser aux supporters suffisamment d'espace pour qu'ils puissent respecter la distanciation sociale. La délégation de l'Afrique de l'Ouest est arrivée à Bamako cet après-midi, accueillie à la sortie de l'avion par les dirigeants de la junte qui a pris le contrôle du Mali mardi dernier. Au programme, rencontre avec les militaires au pouvoir, puis avec le président déchu, Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis alors que la saison touristique bat son plein, Ramatuelle et une partie de Saint-Tropez sont privés d'eau potable en raison d'une rupture de canalisation. L'usage de l'eau a été restreint à son strict minimum, y compris dans les communes voisines. Des distributions de bouteilles sont en cours. Retour à la normale prévu demain matin.
Merci Alice, Élise Dangean, et à tout à l'heure à 19h pour le journal.
D'ici là, direction Monaco pour une nouvelle étape de nos balades en France. Chloé Triomphe.
Une balade au musée, est-ce que ça vous dit explorer les fonds marins, plonger à la découverte de la barrière de corail, remonter l'histoire rien que ça depuis plus de 100 ans? L'Institut océanographique de Monaco sensibilise les visiteurs sur la richesse de nos océans, mais aussi sur leur fragilité et l'importance de leur protéger. Le guide ce soir, c'est notre correspondant sur la Côte d'Azur, Frédéric Michel.
Alors on a rendez-vous sur le parvis du musée océanographique de Monaco avec Gala Pérez. Gala Pérez est animatrice au musée océanographique. Bonjour Gala.
Bonjour, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue au musée océanographique de Monaco. Nous sommes vraiment ici à l'hall d'entrée du musée océanographique. Dès qu'on rentre, on peut observer que le musée a été vraiment inspiré par la mer, par l'océan, car son fondateur, le prince Albert Ier, il était un océanographe. Donc il a fait 28 expéditions tout au long de sa carrière. Et pendant ces expéditions, il a fait des découvertes incroyables, comme par exemple qu'il y a la vie dans les abysses.
Donc là, on démarre la visite en descendant.
C'est ça, nous sommes au niveau -100 et là, on entend un peu de bruit de cétacés qui nous accueillent.
Et on entend une bande sonore car évidemment, il n'y a pas de dauphins ou de baleines dans les bassins et aquariums du musée. Ils seraient à l'étroit. L'ambition ici à Monaco est scientifique et pédagogique.
Donc nous sommes face au plus grand des aquariums du musée. Cet aquarium peut être vu du niveau -100, du niveau -2. On observe les coraux de toutes les couleurs. On observe aussi des éponges, des anémones, tous les types, les familles représentatives des récifs coralliens, les poissons clowns, les poissons chirurgiens, les balistes. Je vous présente ici les requins nourrices. C'est le plus grand des requins du musée océanographique. On l'appelle aussi les requins dormeurs parce que vous pouvez voir, on dirait qu'il fait la sieste. Il fait 2 mètres long, mais il peut mesurer encore plus. Alors les requins, on dit qu'il y a environ 500 espèces de requins au monde. La plupart d'entre eux sont de petite taille.
Alors là, on quitte l'aquarium des requins et on arrive dans une salle, c'est presque un petit labyrinthe.
C'est la zone méditerranée et c'est légèrement plus frais que la partie tropicale.
Là, on a en fait toutes les espèces que l'on peut observer en Méditerranée.
Oui, il y a les espèces menacées ou protégées comme les mérous. On a aussi ici le homard européen, le plus grand des homards au monde.
On ne le mange pas, hein, celui-là.
On ne le mange pas, l'homard européen. Et ici, nous sommes face au plus vieux pensionné de notre musée, la murène Chocolat. On savait qu'elle vivait maximum 50 ans, maintenant, grâce à qu'on l'a ici, on sait qu'elle peut vivre plus longtemps.
Parce que c'est ça aussi la vocation du musée, c'est d'étudier les différentes espèces, leur comportement, leur évolution dans un environnement.
C'est ça. On peut les étudier parce qu'on les a dans des milieux clos, dans des paramètres qu'on peut mesurer, qu'on peut changer et aussi les reproduire. Pourquoi pas, après, les relâcher dans la nature.
Là, le trou ! Là, regardez !
Alors, on poursuit la visite à l'étage et après avoir emprunté un monumental escalier en marbre blanc, nous voilà à l'entrée de l'exposition en immersion. La salle est impressionnante par sa taille et sur des dizaines de mètres du sol au plafond, des images de synthèse sont projetées.
Est-ce que vous aimez plonger ?
L'eau est froide ?
Non, pas du tout. On est dans la Grande Barrière du Corail en Australie. On a chaque 3 minutes les changements, un peu des scénarios. Là, on est vraiment plus dans la nuit et tous les prédateurs commencent à sortir.
Allez, on quitte l'exposition en immersion pour arriver dans une autre partie très importante du musée océanographique.
C'est la partie musée, la salle Monaco et l'océan. Donc dans cette salle, on a un bateau.
Ah oui, une reproduction d'un bateau en bois.
C'est la partie dédiée au prince Albert Ier.
Cette collection ne cessa plus de grandir au gré de nos explorations. Il fallait lui trouver un lieu d'accueil et de recherche. Cela prit du temps. Mais le 29 mars 1910 était inauguré le musée océanographique à Monaco.
L'espace musée propose un voyage à travers le temps sur les pas du prince Albert Ier, de Régnier III, du commandant Cousteau, illustre directeur des lieux. Et sur le pont du bateau, vous avez rendez-vous avec le prince Albert II. La visite se termine un étage plus haut sur la terrasse.
Et voilà que nous sommes à la terrasse, au 2e étage. On a la vue panoramique de Monaco à 360 degrés.
Et là, on est à 80 mètres en surplomb de la Méditerranée. Le paysage est à couper le souffle et nous rappelle, après ce voyage qui nous aura mené sur tous les océans, l'importance de préserver, de protéger ces milieux naturels essentiels à notre vie sur cette planète. Monaco, Frédéric Michel, Europe 1.
Et pour approfondir la visite, nous sommes en ligne ce soir avec Robert Calcagno. Vous êtes le directeur général de l'Institut océanographique de Monaco. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, on vient d'entendre le reportage de Frédéric Michel, entre autres sur l'exposition en immersion dans la Grande Barrière de Corail. Avant d'en reparler avec vous, est-ce que vous pourriez déjà expliquer aux auditeurs ce qu'est l'Institut en général ? Parce que c'est bien plus qu'un musée, c'est vraiment un temple de la mer. Déjà, à quoi il ressemble et puis quelle est sa vocation ?
Oui, alors l'Institut océanographique est un institut qui est âgé, hein, puisqu'il a été créé en 1906 par le prince Albert Ier, l'arrière-arrière-grand-père du prince Albert II, et vraiment dans le but d'étudier, de connaître et de faire protéger l'océan. Donc à l'époque, c'était très, très visionnaire, parce qu'on parlait encore peu de protection de l'environnement. Et aujourd'hui, nous faisons vraiment le lien entre les personnes qui connaissent, en particulier les scientifiques, et ceux qui décident et qui agissent, les hommes politiques, les grandes entreprises, mais aussi tous vos auditeurs, Chloé.
Alors, c'est aussi, vous l'avez dit, un centre d'études des mers, des océans, mais aussi un centre de soins et de réadaptation pour des espèces menacées. Par exemple, vous parlez souvent des tortues marines.
Alors oui, tout à fait. Alors nous avons deux établissements. Un à Paris, la Maison des Océans, qui est vraiment dédiée à des rencontres, à des études. Et puis le Musée océanographique, qui est un formidable lieu d'accueil des visiteurs pour les sensibiliser, mais aussi d'action. Et là, nous soignons, nous reproduisons, nous réintroduisons des espèces marines. Et en particulier, nous avons un centre de soins des tortues marines où nous pouvons accueillir une tortue blessée, la soigner. On a un hôpital et puis la remettre dans le bassin pendant quelques temps. Et lorsqu'elle est prête à retourner à mer, ben, nous la relâchons.
Alors, on va parler maintenant de cette exposition qui a l'air magnifique, l'exposition En immersion dans la Grande Barrière de Corail. Le reportage donne vraiment envie d'y aller. Il faut préciser qu'elle sera prolongée sur toute l'année 2021. Elle est, j'ai envie de dire, pharaonique. Il y a des chiffres qui donnent le vertige. 650 mètres carrés de projection, 60 espèces à découvrir.
Ah oui, tout à fait. Alors, c'est un peu une exposition comme les grandes expositions immersives que nous avons avec des objets d'art. Alors, je ne vais pas donner des noms, mais vous voyez bien. Et là, on l'a fait vraiment avec la nature, non seulement avec des images réelles, mais également des images animées par ordinateur, ce qui permet, et c'est vraiment là toute l'originalité, la novation, à des interactions entre notre public et ces images. Et quasiment, on ne voit jamais les mêmes images puisque le public interréagit différemment. Et le but, c'est vraiment de montrer un peu le côté merveilleux des récifs coralliens. Et là, on voit toutes les espèces dont on peut rêver.
Merci beaucoup, Robert Calcagno, de nous avoir parlé de cette exposition En immersion et de l'Institut océanographique de Monaco en général.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Vous écoutez le Grand Journal du soir, la suite avec Chloé Triomphe dans un instant pour le monde d'après, avec votre invité Jean-Michel Ribe, directeur du Théâtre du Rond-Point. A tout de suite. 18h40 sur Europe 1, votre Grand Journal du soir continue pour écouter le monde changer avec vous Chloé Triomphe.
Bonsoir Jean-Michel Ribe.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur du Théâtre du Rond-Point à Paris, vous représentez bien sûr le théâtre en tant que directeur mais aussi metteur en scène. On imagine que vous attendez, vous aussi, comme d'autres secteurs de la culture, un vrai plan de relance de la part du gouvernement après cette saison blanche. Vous aurez donc plein de choses à demander à Roselyne Bachelot le 26 août prochain. C'est mercredi. Vous allez commencer par lui dire quoi ?
Bah, lui dire que j'espère qu'elle a bonne mine et qu'elle a des forces et des vitamines et qu'elle va rester, qui a été son credo de départ, près des gens qui font ce métier, près de ce qu'on appelle les artistes. Parce que je pense qu'il est indispensable, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble et non pas qu'il y ait simplement une sensation d'organisation uniquement ou étatique ou ministérielle ou municipale, mais qu'on réfléchisse ensemble devant ce tsunami qui nous arrive.
Alors, on imagine que vous avez évidemment besoin d'aide financière, mais peut-être pas que financière. Est-ce que vous avez besoin aussi d'une impulsion, je ne sais pas, du gouvernement pour inciter le public à revenir dans les salles, à revenir profiter de la culture ?
Non, je crois que surtout ce dont on a besoin sur un plan de communication, c'est peut-être que le gouvernement, ou peut-être que Roselyne Bachelot va s'en charger, j'en suis sûr, c'est de retrouver un peu de considération pour la culture. Ce mot ne veut plus dire grand-chose, mais enfin, pour tous ces gens qui sont plus nombreux que dans le secteur automobile, qui gèrent les 90 millions de touristes qui viennent en France chaque année, c'est quand même pas pour nous voir réparer les radiateurs, c'est un peu le rayonnement culturel de la France qu'ils viennent voir. Donc, c'est un peu pour replacer la culture dans l'inconscient collectif à un endroit me semble-t-il, elle n'est plus. Parce que, comme vous avez pu le remarquer, au début de toute cette histoire de pandémie, quand le gouvernement, le Premier ministre sont venus au secours des Français, la culture n'était jamais prononcée, jamais, jamais, jamais.
On n'était pas... tête de gondole, on va dire. Hein. C'est...
Non, mais sans être en tête de gondole, on n'a pas de raison d'être en tête de gondole. Il y avait les soignants et tout ça qui passaient avant nous. Il n'est pas question de réclamer une première place. Il est question de réclamer, disons, une place dans la nation. On est un organe beaucoup plus important qu'on ne le pense. Tout est culturel comme tout est politique. Et il fallait remettre ça dans l'esprit des gens pour qu'ils ne se disent pas « oui, bon, bah, la culture, finalement, c'est la danseuse de la République, on va lui couper un peu le jupon pour faire des économies, etc. » Je crois que c'est ça, c'est se rappeler ce que c'est que la culture, se rappeler qu'un théâtre sans culture coûte plus cher qu'un théâtre avec, que voilà, quand le Festival d'Avignon est annulé, le département entier coule. C'est quelque chose de très important.
C'est un acteur aussi économique important, c'est ça que vous êtes en train d'expliquer.
Je suis en train de le dire, oui, c'est très... Vous savez, il y a plus de gens qui vont dans des salles de théâtre et dans des festivals de théâtre vivant que dans des stades de foot. Et comme vous avez remarqué, on n'est pas exactement dans la communication au même endroit.
Alors pour faire revenir en tout cas ce public, il faut aussi, c'est indispensable, le rassurer. La ministre veut défendre la fin de la distanciation dans les salles de spectacle. Est-ce que ça vous paraît être une bonne idée alors que parallèlement, on remet le masque partout dans les lieux clos?
Oui, la ministre Roselyne Bachelot, elle a deux qualités. Elle est ministre de la Culture, mais elle est aussi docteur en pharmacie. Ce qui veut dire qu'elle a aussi peut-être sa vision, son mot à dire sur un plan médical, et elle peut partager avec peut-être le conseil scientifique des opinions. Voilà. Et je crois qu'en tout cas, il ne faut pas stigmatiser les salles de théâtre comme des futurs foyers d'infection, etc. C'est pas ça. Alors, je crois que tout...
Non, il n'est pas question de ça, mais paradoxalement, regardez, en entreprise, dans quelques jours, il faudra le port du masque systématique. Alors, on se pose la question, pourquoi pas dans une salle de spectacle?
Ça ne vous a pas échappé que les gens qui vont au théâtre ne sont pas dans des open space avec des bureaux et des ordinateurs devant eux. Ce n'est pas du tout la même configuration. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que je crois que, si vous voulez, qu'il y ait des masques dans les théâtres, pourquoi pas? Ce n'est pas finalement quelque chose au bout d'un moment, dans le noir, on peut s'y habituer, etc. Ce n'est pas ça. C'est peut-être au niveau de la distanciation qu'il y a une réflexion à faire, parce que c'est vrai qu'en dessous de 70% de fréquentation dans les salles de spectacle.
C'est pas viable.
Non, économiquement, c'est pas viable, sauf à produire simplement un joueur de flûte en solo sur la scène, mais je suis pas sûr que ça remplisse les théâtres.
Effectivement. Est-ce que vous avez imaginé peut-être entre vous un protocole commun, raisonnable, que vous pourriez soumettre au gouvernement, au ministère?
Bon, je crois qu'on est tous solidaires dans cette histoire. Alors, on a des cas particuliers. Moi, j'ai la chance d'avoir un théâtre et dans les jardins, donc je vais faire le rond-point dans le jardin, c'est-à-dire que je vais mettre un grand tréteau derrière le théâtre du rond-point, qui était en réalité son entrée principale avant, et là, chaque soir, chaque fin d'après-midi, de 6h30 à 7h30, un artiste important, Pénac, François Morel, Pierre Arditi, etc., viendra faire un spectacle pendant une heure devant des gens qui seront en plein air.
Oui, ça c'est une initiative que vous lancez à partir du 8 septembre, c'est bien ça?
Oui, exactement, oui.
Donc des artistes, et c'est très éclectique votre programmation.
Ah oui, ça c'est sûr que la diversité, c'est un peu l'ADN du rond-point, avec aussi les spectacles d'auteurs vivants uniquement. Mais vous savez, c'est important la diversité. Quand vous allez au restaurant, vous ne mangez pas des pommes de terre à l'entrée, au dessert et au plat du milieu. Donc c'est important d'avoir des goûts divers et à proposer des choses diverses, à partir du moment, évidemment, où on a l'impression... C'est des choses de qualité, en tout cas, que nous aimons.
Alors, vous avez programmé ça, justement, pour faire revenir le public, pour pallier à cette crise sanitaire?
Oui, je voulais pallier cette crise sanitaire, revenir le public. Nous, on a la chance d'avoir une relation très affective avec notre public, qui nous a écrit, qui ne s'est pas fait rembourser les places, des spectacles qui ont été annulés. Donc, c'est pour le faire revenir, il est parti, je ne sais pas, mais en tout cas, pour lui dire... On est là, on est vivant, vous êtes chez vous, vous pouvez venir. Rien n'a changé, on vous propose des choses, j'espère, aussi insolites et aussi, je veux dire, excitantes qu'avant. sauf que c'est dans d'autres conditions.
Vous avez parlé de Pénac qui va faire la lecture de son nouveau Malocène. Il y a quoi d'autre pour donner envie au public de revenir justement ?
Il y a Pierre qui va lire des textes tout à fait fous. Il y a François Morel qui va chanter des chansons inventées qu'il a fait sur un marin breton. Il y a Olivier Martin Salvant qui va faire des espèces de shows de chansons totalement folles. Il y a des magiciens. Il y a non, ça n'arrête pas. Donc je peux vous dire que ce sera à la fois chaleureux, festif, et je pense que en dehors des noms très connus, il y aura aussi des découvertes très amusantes à venir voir. Et ça aussi, c'est l'ADN du Rond-Point. Je dois dire que nous, on a fait une programmation depuis 20 ans. On ne fait pas ce que les gens aiment, on fait ce qu'ils ne savent pas encore qu'ils aiment. Et ça nous a permis de programmer et de fidéliser des gens qui ont des surprises et qui viennent voir des surprises sans qu'il y ait pour autant, je ne sais pas qui, une grande star sur les planches, même s'il peut y avoir aussi une grande star sur les planches.
Est-ce que vous vous projetez, j'imagine que oui, sur la suite, sur le retour dans les salles, et peut-être une question sur l'expérience du confinement. Est-ce que des programmations pourraient être mises à disposition du public via Internet, un peu à l'image de ce qu'a fait la Comédie française avec la Comédie continue? Est-ce que c'est transposable ou pas pour vous, pour d'autres? Ou c'est trop spécifique?
On l'a fait aussi au Rond-Point, on n'a pas arrêté de le faire. Disons que c'est mieux que rien, mais le spectacle vivant, comme son nom l'indique,
doit rester vivant pour vous.
Oui, même si le cinéma n'est pas mort, et quand on voit le cinéma mort, mais c'est un rapport entre les gens vivants, c'est un échange émotionnel, entre des gens qui proposent de l'émerveillement devant des gens qui sont à portée de main.
Mais est-ce que ça donne des idées de renouveler un petit peu l'offre? Est-ce qu'il y a des choses à garder de cette expérience, selon vous?
Certainement, moi je pense qu'il faut s'arrêter un peu, réfléchir. Et sûrement, mais encore une fois, c'est ce que je vous dis au début de cette interview, je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion avec les gens de terrain. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent apporter des solutions et des réponses à des questions qui sont posées depuis des années et jamais résolues. Là, je pense qu'il y a quelque chose, en effet, qui peut être dit. Alors, je ne sais pas sur les productions, comment produire peut-être plus collectivement, peut-être moins cher, mais en même temps de qualité, comment on peut tourner avec des relations plus précises avec les villes, avec etc. Il y a toute une réflexion à faire qui, à mon avis, peut en effet offrir, sur un plan économique, une fluidité plus importante qu'avant.
Et un dernier mot peut-être, on a beaucoup parlé de théâtre, mais c'est vrai qu'il y a aussi les concerts, il y a la danse notamment. Selon vous, quel est le secteur le plus en difficulté, le secteur qu'il faut vraiment aider d'urgence?
Je veux dire, la danse et les concerts, nous sommes frères jumeaux. C'est-à-dire tout ce qui est spectacle vivant, c'est en effet ce qu'il y a de plus fragile. Ce qu'il y a de plus fragile parce que même si le cinéma traverse une grande difficulté, il y a des groupes importants derrière eux. Il y a des,
qui peuvent
des
tenir le choc cinéma. Un peu plus longtemps.
Je crois et je le souhaite pour eux. Mais nous, on a la fragilité du nuage et du rêve.
Merci beaucoup Jean-Michel Ribe d'avoir été en direct ce soir avec nous sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur du théâtre du Rond-Point à Paris.
18h51 sur Europe 1, votre grand journal se poursuit en musique avec notre rendez-vous 50 ans de tubes d'été, Chloé Triomphe.
Avec notre spécialiste de la chanson française qui nous raconte de merveilleuses histoires, d'incroyables secrets de fabrication de nos tubes d'été. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Chloé et bonsoir à tous. Alors vous savez Chloé, et comme je le dis souvent, quand vous connaissez l'histoire de la création d'une chanson, vous n'écoutez plus cette chanson de la même manière.
Effectivement. Alors ce soir Fabien, vous allez nous parler d'un des plus importants tubes des années 90, un des plus grand succès de l'été 97, je veux parler de Lucie de Pascal Obispo qui reste pour des millions de Français le slow de la saison estivale en 97.
Lucie, Lucie, c'est moi, je sais, il y a des soirs comme ça autour, s'écroule autour de vous, sans trop savoir pourquoi toujours regarder devant soi. Sans jamais baisser les bras, je sais.
Et oui, en 1997,
on a du mal à couper, hein.
Pascal Obispo révèle une nouvelle facette de son talent avec une magnifique ballade piano-voix intitulée Lucie. Alors partons ce soir justement aux origines de cette chanson qui aurait dû véritablement s'intitulait Marie et surtout qui a bien failli ne pas être intégré à son nouvel album.
Oui, Fabien, un Pascal Obispo qui commence sa carrière de chanteur au tout début des années 90.
C'est vrai, Chloé, puisque l'année prochaine, Obispo célébrera déjà ses 30 ans de carrière. Il faut le dire, il a été la véritable révélation de la décennie 90. Pascal Obispo signe un contrat justement avec les disques Epic en 1991 et obtient son premier double disque d'or l'année suivante avec Plus que tout au monde, souvenez-vous. Suivi en 1994 de l'album Un jour comme aujourd'hui, vendu à plus de 370 000 exemplaires. Alors par ailleurs, alors que la dynamique du succès est en marche pour lui, Pascal Obispo choisit de s'impliquer dans la lutte contre le sida en travaillant notamment avec l'album Entre sourire et larmes, un disque caritatif qui réunit en 1995 plusieurs artistes comme Jane Birkin, Alain Chamfort, Liane Folly, Kent, Stéphane Echer ou Les Innocents.
Et c'est justement en travaillant sur ce disque caritatif que Pascal Obispo va faire une rencontre déterminante pour la suite de sa carrière.
Absolument, Chloé, car c'est à l'occasion de la préparation de ce disque que Pascal Obispo fait la connaissance de Lionel Florence, un ex-professeur de dessin originaire de Lorraine qui a écrit 6 textes de l'album. Alors séduit par son style d'écriture, Obispo sympathise avec Lionel et décide de lui demander tout simplement des textes pour le 4e album studio qu'il est en train de préparer. Et c'est alors que Lionel Florence, on va dire, repense à une lettre qu'il avait écrite quelque temps plus tôt à sa nièce Marie, âgée alors de 12 ans. Et dans ce courrier, Lionel expliquait à la jeune fille combien la vie était précieuse et combien il était essentiel de profiter de chaque instant. Alors Lionel Florence décide de transformer la missive en chanson.
Donc si on vous suit bien, Fabien, la chanson devait en réalité s'appeler Marie.
Exactement, Chloé. Mais juste avant de faire parvenir son texte à Pascal Obispo, Lionel Florence décide de changer le titre afin d'éviter toute connotation religieuse et confusion avec la Vierge Marie. Il remplace donc le prénom de Marie par Lucie, qui comporte le même nombre de syllabes et qui se termine avec un « i ». Alors, heureux choix, puisque, sans le savoir, il s'agissait du prénom de l'arrière-grand-mère de Pascal Obispo, une personne très importante pour le chanteur, puisque c'est avec elle qu'il a passé ses premières années et qu'il a appris à marcher et à manger. Alors, on imagine donc l'émotion, Chloé, de Pascal Obispo, ce soir-là, dans son appartement de la rue de Parme, près de la place de Clichy à Paris, en découvrant sur son fax, à l'époque, le texte de cette chanson qui lui rappelle un précieux membre de sa famille.
Et du coup, j'imagine, Fabien, que séduit évidemment par ce texte, eh bien Pascal Obispo enregistre le titre aussitôt.
Alors, pas tout de suite, Chloé, car il compose la musique de Lucie au piano quelques jours plus tard, et surtout en relisant bien sûr le texte de Lionel Florence. Mais précisons quand même, avec une fulgurance étonnante, comme dictée par une force céleste. Il appelle ensuite Lionel Florence pour lui faire écouter bien sûr, et lui dire toute son émotion et son bonheur de pouvoir rendre hommage en chanson à son ancêtre. Et bien sûr, quelques jours plus tard, Pascal Obispo enregistre Lucie avec d'autres chansons écrites par Lionel Florence.
Et le single Lucie sort dans la foulée.
Alors, on aurait bien aimé. Seulement, il y a un problème. Car au moment du choix définitif des titres de l'album, la maison de disques opte pour des chansons très guitare, si bien qu'aucune des chansons écrites par Lionel Florence, qui sont plutôt des ballades piano-voix, ne sont retenues. Mais compte tenu du côté affectif de Lucie, Pascal Obispo va quand même faire le forcing auprès de sa maison de disques pour que cette chanson soit incluse dans l'album. Alors, pour faire plaisir à Obispo, Lucie se retrouve ainsi, tenez-vous bien, en 12e position de l'album Superflu, qui sort le 29 octobre 1996. Il n'est évidemment pas prévu que ce titre devienne un single.
Et pourtant, Fabien, le destin va en décider autrement.
Et oui, en effet, miraculeusement, Chloé, vous allez voir, lors de la cérémonie des Victoires de la musique, le samedi 10 février 1997, Pascal Obispo, qui est nommé 4 fois, doit chanter avec un orchestre un de ses succès. Seulement, pour une question de temps et de mise en place entre 2 chansons, la production demande au chanteur de changer de titre et d'interpréter plutôt une chanson où il n'aurait pas besoin de l'orchestre. Et c'est ainsi que Pascal va chanter au piano Lucie, provoquant un grand moment d'émotion dans la soirée. Dès le lendemain, la critique salue unanimement, on va dire, cette chanson, insistant sur la nouvelle facette du chanteur, beaucoup plus profond que dans son répertoire habituel. Du coup, la maison de disques décide de sortir Lucie en single et pour cela, Obispo réenregistre la voix, car pour lui, sur la version de l'album, elle n'était pas assez présente. Évidemment, Chloé, tout au long du printemps et de l'été 1997, Lucie va battre des records de ventes s'écoulant à 80 000 exemplaires par mois et entraînant dans son succès l'album Superflu qui devient disque de diamant avec plus d'1 250 000 exemplaires vendus.
Merci beaucoup Fabien Lecoeuvre pour cette jolie histoire. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces anecdotes sur le podcast europe1.fr.
18h58 sur Europe 1. Dans un instant, la suite de votre grand journal du soir. À tout de suite.
Europe 1.
Le grand journal du soir se poursuit avec vous, Chloé Triomphe.
Et après le journal, dans cette deuxième heure, les préparatifs de la finale de la Ligue des Champions avec les espoirs du Paris Saint-Germain face au Bayern à Lisbonne demain soir. Les supporters parisiens se préparent à faire la fête demain. Les Champs-Élysées seront entièrement piétonnisés. On en parlera avec notre invité Nicolas Nordmann, adjoint en charge de la prévention et de la sécurité à la mairie de Paris. On aura beaucoup de questions à lui poser. À suivre aussi les Jeux des vacances avec les conseils de Clément Le Saffre et dans la chronique gastro. On va parler boulettes ce soir, c'est délicieux. Mais d'abord le journal avec vous Élise Dangean, bonsoir.
Bonsoir. Bon début de soirée à l'écoute d'Europe 1, il est 19h.
Leur montrer qu'on est là aussi, qu'on les soutient. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre demain. Avec ce petit regret qu'on ne puisse pas aller au stade, le cœur y sera. Après, on croise les doigts.
Le compte à rebours est lancé avant la grande finale de Ligue des Champions qui opposera le PSG au Bayern Munich. Nous serons avec les supporters parisiens à Lisbonne dès le début de ce journal. Calendrier maintenu, mais présentation reportée. Le gouvernement dévoilera son plan de relance, non pas mardi prochain, mais la première semaine de septembre. Objectif, rester concentré sur la rentrée. Entrée des classes attendue par les enfants, redoutée par les parents, avec un protocole sanitaire durci, c'est à ne plus rien y comprendre.
On demande aux enfants de 11 ans de mettre un masque dans les espaces clos, autrement dit les classes. Par contre, dans la cour, c'est autorisé. Quand ils sortent de l'école, quand ils vont sur le trottoir et qu'ils doivent mettre un masque, ils se prennent des amendes s'ils ne le font pas.
Enfin, on prendra la route pour Berlin, où l'opposant russe Alexei Navalny est arrivé ce samedi pour y être hospitalisé après un potentiel empoisonnement.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
J-1 avant la grande finale de Ligue des Champions où le PSG va tenter l'exploit face au Bayern Munich.
Dernier entraînement ce soir pour les hommes de Thomas Tuchel sur la pelouse de la Luce où ils joueront demain. Et on part tout de suite à Lisbonne. Simon Rubin, vous êtes devant l'hôtel des joueurs qui vont partir d'ici quelques minutes. Et il y a quelques supporters venus les encourager.
Oui, comme quasiment chaque jour ici, vous avez une centaine de curieux qui viennent voir devant l'hôtel, accoudés aux barrières, attirés aussi par l'immense bus aux couleurs du PSG qui est garé juste devant l'hôtel. Et parmi la foule, j'ai rencontré Roxane et Christian. Ils sont en vacances à Lisbonne et ce sont d'authentiques fans du PSG venus pour soutenir aussi les joueurs.
On va essayer de les voir et de les apercevoir, on va pouvoir faire quelques photos.
Leur montrer qu'on est là aussi, qu'on les soutient. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à attendre demain. Avec ce petit regret qu'on ne puisse pas aller au stade, le cœur y sera. Et puis on est là, on les attend là pour leur faire un petit dernier, comme on dit ici, un petit oblas. Après, on croise les doigts.
Et les joueurs parisiens qui devraient partir pour l'entraînement d'ici quelques minutes, entraînement tardif mais qui permet d'éviter de jouer par plus de 30 degrés en plein soleil. Et puis ce sera l'occasion de faire l'état des troupes. A priori, pas de soucis du côté de Paris, tout le monde est en forme. Mais les joueurs blessés ces derniers jours devraient tous être rétablis pour la grande finale.
Simon Rubin, envoyé spécial d'Europe 1 à Lisbonne. À Paris, le protocole a été renforcé en vue de cette finale. L'avenue des Champs-Élysées sera interdite aux voitures demain soir. Objectif, permettre aux supporters de respecter la distanciation sociale. Supporters qui devront porter le masque et se disperser dans les deux heures qui suivront le match.
Calendrier maintenu, mais présentation reportée. Le plan de relance du gouvernement ne sera pas rendu public mardi.
Non, le gouvernement se laisse une semaine supplémentaire pour pouvoir préparer au mieux la rentrée sur fond de reprise épidémique. Mais l'argument ne semble pas convaincre Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
Personne ne peut expliquer qu'un plan de relance qui est attendu, que j'imagine aussi les marchés attendent. Enfin bon, il y a beaucoup de conséquences où d'un coup on nous explique que non, il est retardé. Enfin, c'est quelque chose d'ahurissant, quoi. Nous, on leur demande de planifier une possible deuxième vague depuis des mois. Et là, on nous dit maintenant, en urgence, il faudrait faire quelque chose. Mais ça veut dire que ces gens-là ne sont pas prêts. Bon, donc ça veut dire que c'est des incapables qui nous dirigent en réalité. Et je vous dis, c'est des incapables qui nous dirigent parce qu'ils ne sont pas capables de répondre, j'allais dire pratiquement de manière idéologique, à la nécessité d'un État plus fort, à la nécessité d'un État social plus important.
Éric Coquerel, député La France Insoumise au micro Europe 1 de Claudia Bertram. Et le gouvernement précise que le calendrier d'application de ce plan de relance de 100 milliards d'euros sera bien maintenu.
Et si le gouvernement ne veut pas se disperser à l'approche de la rentrée, c'est aussi que l'inquiétude est vive.
Oui, notamment du côté des parents d'élèves. D'ici 10 jours, 12 millions d'enfants vont reprendre le chemin de l'école. Et si la rentrée des classes est maintenue, c'est avec un protocole sanitaire durci. De quoi perdre en chemin quelques parents
enseignants, Victor Delande.
Masque obligatoire pour tous les enseignants, sauf en maternelle. Là, il s'agit d'une simple recommandation. Port du masque pour les élèves, oui, mais à partir du collège uniquement. Pour Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE, il faut arrêter avec ces injonctions contradictoires, illisibles, dit-il, et anxiogènes pour les parents. Il donne un autre exemple aberrant, selon lui.
On demande aux enfants de 11 ans de mettre un masque dans les espaces clos, autrement dit les classes. Par contre, dans la cour, c'est autorisé. Et quand ils sortent de l'école, quand ils vont sur le trottoir et qu'ils doivent mettre un masque, ils se prennent des amendes s'ils ne le font pas.
Autre source d'inquiétude, les toilettes dans les écoles. Les élèves vont s'y croiser et rien n'est prévu dans le protocole sanitaire, selon Myriam Ménez, présidente de la PEP du Val-de-Marne.
On n'aborde absolument pas la question primordiale des sanitaires, qui sont quand même la clé de voûte du respect des gestes barrières. C'est que nos enfants puissent, avant toute chose, pouvoir se laver les mains chaque fois qu'ils estiment que c'est nécessaire ou qu'ils en ont envie.
Enfin, les parents d'élèves s'inquiètent tous du coût des masques qui va alourdir le budget de la rentrée scolaire. Le ministre semble les avoir entendus et propose de les rendre gratuits pour les familles les plus démunies.
Victor Delande, indignation générale à Ouradour-sur-Glane après plusieurs tags négationnistes retrouvés sur les murs du centre de la mémoire de ce village martyr de la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Macron affirme que tout sera fait pour retrouver les auteurs. Une enquête a été ouverte par le parquet de Limoges.
L'opposant russe Alexeï Navalny est désormais hospitalisé à Berlin après son transfert depuis la Russie.
Toujours dans le coma, l'homme est à présent dans un état stable, mais pour ses proches, pas de doute, il a bien été empoisonné. Côté russe, on parle d'une simple hypoglycémie. Nicolas Feldman, bonsoir.
Bonsoir.
Dans ce bras de fer, c'est l'Allemagne qui a permis l'évacuation de l'opposant russe.
Oui, et à l'origine de ce transfert, une ONG peu connue, basée à Berlin. Son nom, Cinema for Peace. Tout s'est joué en fait en quelques heures hier soir. L'organisation mobilise des fonds, affrète un avion médicalisé. L'opposant russe est alors évacué. Il atterrit ce matin dans la capitale allemande, pris en charge ensuite dans l'un des hôpitaux les plus réputés d'Europe. Un soulagement pour Grégory Dournouveau, membre d'OVD Démocratie, une organisation basée en Russie.
Dans l'hôpital russe à Omsk, il y avait des personnes bizarres, suspectées d'être des agents du service de renseignement d'État. Un hôpital dans une île russe n'est pas un endroit très sûr pour lui. C'est tout l'inverse de cette clinique à Berlin, où il va pouvoir recevoir un traitement.
Voilà, un traitement, mais aussi un diagnostic, empoisonnement ou simple hypoglycémie. Les médecins allemands devraient nous apporter des précisions. L'ambassadeur français pour les droits de l'homme, lui, en tout cas, n'a pas de doute sur les réseaux sociaux. Il liste les opposants russes morts ou empoisonnés ces dernières années avec ce hashtag « Nous savons qui est le coupable ».
Merci Nicolas Feldman.
Et puis on vous a parlé de la finale PSG-Bayern de demain. Mais ce soir, c'est l'Olympique lyonnais qui affronte le club allemand.
Vous ne rêvez pas, nous ne sommes pas revenus 3 jours en arrière. Ce soir, ce sont les femmes qui jouent et pas n'importe lesquelles, les quadruples championnes d'Europe. Hasard du calendrier, après la défaite 3-0 des garçons mercredi. Alors, est-ce que cette rencontre aura des airs de revanche? Pierre Herbulot a posé la question aux supporters lyonnais.
Il va falloir rétablir l'équilibre.
Autant Dominique a craint pour Memphis Depay et ses coéquipiers en milieu de semaine, autant ce soir, ce fin connaisseur de l'équipe féminine de l'OL est plus que confiant.
Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Normalement, on est au-dessus, quoi.
D'ailleurs, d'une certaine façon, les filles doivent une victoire aux garçons, estime Pierre-Yves à la sortie de la boutique officielle.
Il ne faut pas oublier que le football féminin vit du football masculin. Donc il y a toujours des rapports. L'OL féminin n'existerait pas s'il n'y avait pas l'OL masculin pour le financer. Pour le financer avant. Hein.
Gérard, du groupe de supporters OL Angels, refuse lui toute analogie entre les deux rencontres. La seule chose qui l'intéresse, c'est que Wendy Renard et les autres soient concentrés sur leur propre match ce soir.
Non, c'est un match différent. Pour les filles, je pense que c'est pas bon qu'elles voient ça comme ça. On va venger les mecs. Ce sont deux choses différentes. On n'est pas. Même si de temps en temps on est revanchard, mais pas se mettre de pression inutile, c'est pas le genre de la maison.
Le genre de la maison, c'est de gagner toutes les Ligues des Champions depuis 4 ans. Non, décidément, pas de comparaison avec les garçons. À Lyon, Pierre Herbulot, Europe 1.
Et le coup d'envoi du match sera à 20h.
C'était le journal d'Élise Dangean, merci.
La météo avec Cdiscount. Cet été, même en vacances, Cdiscount livre tout ce dont vous avez besoin, partout où vous êtes. Profitez de votre été avec Cdiscount.
Et la météo pour demain, ce ne sera pas le grand beau et ce sera surtout plus frais, Valérie Darmon.
Et oui, ce dimanche, les averses traîneront encore un petit peu au nord de la Seine dans un air de plus en plus frais. Quelques averses vont se produire également sur le sud-ouest et au nord de la Loire. Mistral et Tramontane se renforcent en Méditerranée en raison du creusement de la dégradation sur le golfe de Gênes. Et les rafales vont atteindre 80-90 km/h près de l'embouchure du Rhône. Le risque d'incendie risque d'être assez élevé, soyez prudents. Pour le reste du pays, c'est une alternance de nuages et d'éclaircies qui s'installent partout, avec davantage d'éclaircies que ce samedi. Les températures baisseront aussi au sud. On va se situer à peine dans les normales de saison, avec 21 à 27 du nord au sud de la France, encore 30 à 32 près de la Méditerranée. Par exemple, 21 à Cherbourg au meilleur de la journée dominicale, 24 à Saint-Étienne, 26 à Mont-de-Marsan et à Paris, 29 degrés à Valence et 31 à Montpellier.
Merci Valérie Darmon.
19h10 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir, Chloé Triomphe. Vous recevez ce soir Nicolas Nordmann, adjoint à la prévention et à la sécurité de la mairie de Paris.
Bonsoir Nicolas Nordmann.
Bonsoir.
Alors on va parler avec vous évidemment de la finale de la Ligue des Champions et du Paris Saint-Germain. Alors demain à Paris, a priori tout est fait pour éviter les scènes de débordement qu'on a pu voir lors de la demi-finale. Vous avez avec la préfecture de police de Paris mis en place un dispositif, à commencer par la piétonnisation des Champs-Élysées demain soir. C'était pas une demande de votre part, mais vous y êtes favorable. Comment est-ce que vous voyez les choses demain ?
Bah demain soir, ça va être un événement en tout point exceptionnel. Exceptionnel parce que, bien sûr, on espère la victoire du Paris Saint-Germain, mais aussi compte tenu des circonstances qui sont elles-mêmes exceptionnelles avec la crise sanitaire. Alors oui, nous avons travaillé avec la préfecture de police pour pouvoir mettre en place le dispositif qui soit le plus adapté à ce contexte exceptionnel d'un point de vue sanitaire. Et donc oui, les Champs-Élysées seront piétonnisés, d'abord parce que on sait que c'est un lieu traditionnel de rassemblement d'après-match, et puis pour pouvoir maintenir et permettre à ce que des distances soient respectées entre les éventuels supporters qui se rendraient sur les Champs-Élysées, il faut avoir le maximum de place, et donc oui, le fait d'avoir rendu l'avenue piétonne va dans
c'est une
dans
bonne
ce
chose,
sens.
D'accord. Et côté Parc des Princes aussi, avec une retransmission du match, potentiellement 5000 personnes, tout est prévu pour ?
Alors pour le Parc des Princes, c'est le club qui organise, il y a une billetterie, donc les choses vont être très organisées et très régulées. Je pense que de ce point de vue-là, côté Parc des Princes, les gens qui auront leur billet iront voir la retransmission. Mais je pense que les choses vont se passer de manière tout à fait sereine.
Alors, on a parlé de distribution de masques aux abords de ces zones, aussi de demandes de respect des distances de sécurité avec éventuellement des patrouilles de prévention, des verbalisations aussi, si nécessaire, de la part des policiers. Est-ce que tout ça, ça vous paraît être des garanties suffisantes ?
Nous sommes dans une période exceptionnelle. Comme vous le savez, le virus circule à nouveau beaucoup et particulièrement à Paris, et donc il faut prendre ces dispositions exceptionnelles. Nous avons souhaité que, en effet, sur les zones d'éventuels rassemblements, il puisse y avoir des distributions de masques, d'ailleurs pas simplement sur les Champs-Élysées. Par exemple, la ville de Paris, les agents de la ville de Paris se déploieront dans les zones où habituellement les gens sortent pour aller voir le match, par exemple dans des bars ou des cafés, des restaurants.
C'est-à-dire dans quoi ? Dans tous les quartiers, dans tous les arrondissements ?
Alors, on va privilégier les quartiers qui sont les quartiers habituellement festifs, autour de Bastille, Oberkampf, Forum, Quartier Latin, là où les gens peuvent aller voir le match. Nous leur distribuerons, la ville de Paris, des masques. Nous ferons aussi de la sensibilisation pour expliquer qu'il faut, même s'il y a de l'effervescence, même s'il y a de la joie, ce qu'on espère, il faut maintenir dans ce contexte sanitaire les distances de sécurité par rapport à la transmission du virus, porter le masque. Et donc, c'est pour ça que nous ferons ces actions de sensibilisation.
Alors, on voit mais effectivement...
Au-delà de ça, je pense que nous voulons aussi délivrer le message que il faut quand même éviter, dans le contexte, ces grands rassemblements, peut-être trouver des modalités un peu différentes d'habitude pour pouvoir voir le match tous ensemble, peut-être plus dans le cercle familial. En tout cas, nous pensons qu'il faut éviter que des clusters se multiplient à l'occasion de cet événement.
Alors on entend bien sûr votre message, mais il ne faut pas être naïf. À partir du moment où les supporters savent que les Champs-Élysées vont être piétonnisés, il faut quand même s'attendre à un afflux de personnes. Est-ce que ce n'est pas un peu, pardonnez-moi, un peu bisounours de penser que personne ne va sauter de joie en criant, en se tenant par les bras, au mépris de toutes les consignes sanitaires, même si vous faites passer un message de prévention? Comment est-ce qu'on peut éviter que la joie soit comme ça, assez tactile?
Alors, en rappelant les messages, en étant présent sur place, la préfecture de police, le préfet de police a annoncé qu'il y aurait sur les Champs-Élysées des verbalisations pour non-port du masque dans une zone où c'est obligatoire de le porter, hein, depuis maintenant quelques jours. D'ailleurs, indépendamment d'ailleurs du fait de ce match. Et donc, il faut au maximum que les gens prennent conscience qu'il faut faire attention par rapport à ce contexte sanitaire. Alors, ce n'est pas du tout bisounours. Les mesures de prévention, d'alerte, elles sont prises. Et je vous remercie de m'en donner l'occasion ce soir. Il faut éviter ces rassemblements, même si nous savons que si le Paris Saint-Germain gagne, il peut y avoir ce type de rassemblement. Dans ces cas-là, il faut au maximum que la prévention se fasse.
Alors, il y a une question d'horaire aussi. Les festivités doivent cesser 2 heures après la fin du match. Est-ce que c'est suffisant, 2 heures?
Alors, le tempo a été fixé par la préfecture de police. Je pense qu'elle considère qu'au-delà d'une certaine heure, ce ne sont pas forcément des gens qui sont là pour célébrer le match. Et on l'a vu malheureusement lors de la demi-finale et en d'autres occasions sur l'avenue des Champs-Élysées, il peut y avoir des choses qui sont des exactions commises ou des violences commises. Et donc le préfet de police a considéré que 2 heures après la fin du match,
c'était suffisant.
Il était suffisant et que les gens, en tout cas, qui voulaient célébrer la victoire seront déjà rentrés chez elles.
Et vous redoutez des débordements aussi, par exemple, ce qu'il faut envisager en cas de défaite? Il y a 3000 policiers mobilisés.
Écoutez, il faut vous faire confiance à l'esprit des sportifs, des supporters. On prévoit l'ensemble, les deux hypothèses. Évidemment, on privilégie l'hypothèse de la victoire parce qu'on reste supporter du Paris Saint-Germain. La défaite, elle peut aussi advenir, mais je dirais que c'est le sport et il faut que, évidemment, que chacun garde l'esprit sportif.
Bon, on va parler de victoire maintenant, si vous voulez bien. J'imagine que vous êtes peut-être projeté dans cette hypothèse. Et est-ce qu'on peut imaginer un retour victorieux de l'équipe du Paris Saint-Germain sur les Champs-Élysées lundi, ou c'est complètement utopique dans ce contexte de crise sanitaire?
Pour vous dire les choses, nous pensons que c'est compliqué. C'est difficile d'expliquer qu'il faut éviter les rassemblements pour ne pas transmettre le virus et créer des clusters et en même temps organiser une descente des Champs-Élysées. Donc ça me semble quand même compliqué. Nous sommes en train de discuter avec la préfecture de police, avec le club aussi, pour essayer de voir quelles pourraient être les modalités évidemment les plus sécures possibles dans le contexte sanitaire, pour quand même que les supporters puissent partager ces moments de joie et peut-être avec les joueurs. Donc pour l'instant, les discussions sont en cours.
Merci beaucoup Nicolas Normand d'avoir été en direct avec nous. Vous êtes adjoint à la prévention et à la sécurité à la mairie de Paris. Bonsoir.
19h17 sur Europe 1. Dans un instant, la suite de votre grand journal du soir avec les sports et Lionel Rosso. A tout de suite. 19h20 sur Europe 1, la suite de votre grand journal avec le programme sportif du soir, Chloé Triomphe.
Bonsoir Lionel Rosso.
Bonsoir Chloé.
On va faire avec vous le menu d'Europe 1 Sport. Bon, sans trop s'avancer, on va parler de Ligue des Champions, mais on va d'abord parler de la reprise de la Ligue 1 avec dès hier un match entre Bordeaux et Nantes.
0-0, le match qui a été assez terne, on va passer rapidement là-dessus, mais c'est la reprise de la Ligue 1, c'est vrai, dans une actualité football très forte, la finale de la Ligue des Champions et ce championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2. Il y a eu des rencontres d'ailleurs aujourd'hui, notamment la victoire d'Angers à Dijon en Ligue 2, Dunkerque qui est allé gagner contre Toulouse. Et ce soir, nous aurons à vous proposer la rencontre entre Lille et Rennes. Deux équipes qui sont un peu les sœurs ennemies, à défaut de dire les frères ennemis, parce que ce sont deux équipes qui jouent l'Europe et qui ont de belles ambitions. Bordeaux également, parlons-en un petit peu, puisque notre ancien consultant Alain Roche en est aujourd'hui le directeur sportif. Et il s'attend à une saison peut-être un petit peu compliquée, avec un mercato qui risque d'être complexe. Là aussi, il nous répond
répond en exclusivité dans Europe 1 Sport.
On va naviguer, hein, un peu à vue comme beaucoup de clubs. On se cache pas, hein, vous le savez, le club a quelques difficultés financières. C'est pas pour ça qu'on va faire n'importe quoi, qu'on vendra n'importe qui à n'importe quel prix. Il faudra que les connexions soient bonnes entre les intérêts du club et bien sûr et des joueurs. Et si on se renforce, on le fera. S'il y a des départs, on les compensera par des gens de bon niveau. Si on peut rassurer tout le monde... Là, on est unanime avec Jean-Louis Gasset, qu'on aura une équipe compétitive et qu'on ne fera pas des bêtises qui mettent en danger l'équipe première.
Bon, voilà, nous voilà rassurés, Lionel, pour le mercato, mais bon, il faut quand même dire aussi que la Ligue 1, elle se fait là sous la menace du Covid, évidemment.
Ça continue, effectivement, le virus est toujours là aussi pour les footballeurs, malgré le protocole qui est quand même plutôt sévère, des joueurs qui sont encore positifs et des matchs qui sont toujours menacés. Vous le savez, Marseille-Saint-Etienne a été reporté. Ça peut être aussi le cas pour le match demain entre Nice et Lens. Ça peut être aussi le cas pour Brest-Nîmes, car des joueurs nîmois, des joueurs niçois sont positifs au Covid. Et d'ailleurs, ce soir, on recevra le médecin de la Fédération française de football qui est à l'origine de ce protocole anti-Covid pour les joueurs de foot, et on essaiera de faire un peu de prévision et de prédiction avec lui.
Bon, alors parlons Ligue des Champions maintenant. Vous nous avez... Bon, un PSG Bayern demain. Vous nous avez concocté un drôle de sujet. Hein. Il faut bien une idée de Marseillais, ça.
Je vais juste vous donner la thématique et vous écouterez l'émission ce soir. Mais pourquoi les Marseillais ne supportent pas le Paris Saint-Germain? Vous avez 2 heures. Ou sinon, vous écoutez Europe 1 Sport à 20h.
Eh bien, le programme est donné. À tout à l'heure, Lionel Rousseau, Europe 1 Sport, à partir de 20h.
Et c'est un autre terrain de jeu que l'on foule à présent. Tous les week-ends, des jeux vidéo à emporter ou à tester dans le canapé pendant ses vacances.
Bonsoir Clément Le Saffre. Aujourd'hui, vous nous proposez une nouvelle escapade à travers l'ordinateur.
Eh oui, PNC aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée. Je vous emmène, vous l'avez deviné, faire un tour au-dessus des nuages grâce à Microsoft Flight Simulator. Alors, Flight Simulator, c'est une des plus vieilles licences du jeu vidéo. Le premier remonte à 1982. Le dernier, lui, est sorti cette semaine et ça a bien évolué. En 40 ans, jamais un simulateur de vol n'avait été aussi précis et aussi beau. Le jeu est unanimement salué par la critique dans le monde entier. Et soyons-en fiers, car c'est une production française. C'est le studio Asobo, basé à Bordeaux, qui a réalisé cet exploit.
Ah, vous dites carrément exploit, vous avez l'air impressionné.
Ah, il y a de quoi, hein, je vous assure. D'abord, car le jeu atteint un niveau de précision hallucinant. On a vraiment la sensation d'être aux commandes d'un avion, que ce soit un petit Cessna ou alors un gros Boeing 747. Tous les boutons du cockpit qui ont été modélisés servent réellement à quelque chose. On peut tous les activer. Il y a même pour les mordus une checklist à effectuer au décollage. C'est une simulation qui est donc ultra réaliste et pour cause, les équipes en charge du jeu ont appris à voler exprès pour se rendre compte de ce que ça fait de piloter un avion. Sébastien Vloch, le patron d'Asobo, m'a raconté cette expérience créative inédite.
Les responsables techniques et créatifs du projet ont passé beaucoup de temps dans un avion à piloter. J'ai fait attention à ça sent quelle odeur. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça pousse? Est-ce que ça vibre? Et on s'est dit, voilà, sur une simulation sur ordinateur, comment le retranscrire? Comment faire que l'utilisateur ne voit pas juste un cadran avec des kilomètres-heure, mais ait la sensation de voler? Donc on a travaillé beaucoup avec des pilotes et avec aussi les constructeurs sur les données pour être sûr que nos avions soient les plus réalistes possibles.
Alors ça, c'est donc pour la partie jeu, mais en fait, Flight Simulator est aussi passionnant à simplement regarder. Vous avez des tas de vidéos sur YouTube de joueurs qui filment leur vol et c'est magnifique.
Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il y a de si beau à regarder des avions voler?
C'est une bonne question et ça tient d'abord au graphisme. Les développeurs ont reconstitué l'intégralité de la surface terrestre, rendez-vous compte, et là encore, avec une grande précision. Alors, vous voulez zigzaguer entre les gratte-ciel de New York? C'est possible. Vous préférez plutôt un survol des pyramides de Gizeh? C'est possible aussi. Ou alors... survoler aussi les îles paradisiaques des Antilles pour vous faire un peu rêver, vous évader en ces fins de vacances, eh bien c'est possible aussi. Régalez-vous, on croirait voir des images sorties d'un documentaire tellement c'est réaliste. C'est absolument bluffant et hypnotisant vraiment, et ça permet à ceux eh bien, qui ne pourront pas jouer à Flight Simulator de rêver un petit peu, car oui, je précise qu'il n'est disponible déjà que sur PC et qu'il faut en plus avoir un ordinateur quand même récent et assez puissant pour le faire tourner, car le jeu est assez gourmand. Donc si votre ordi rame un peu, rendez-vous sur YouTube, vous tapez Microsoft Flight Simulator et vous voyagez devant votre écran.
Merci Clément Le Saffre, c'est noté. À demain pour le dernier conseil jeu de l'été, qui est un petit avant-goût de reprise du travail, j'en dis pas plus. Et justement, en attendant de retrouver le travail, le vrai, il y a de la route à faire pour certains. Ça va un petit peu mieux que tout à l'heure, Marion Gauthier.
Oui, le plus dur est derrière vous si vous êtes en voiture. À l'ouest notamment, le trafic est maintenant fluide pour atteindre Nantes. Quelques difficultés encore aux abords de grandes villes comme Lyon, Clermont-Ferrand ou Bordeaux. Beaucoup de monde qui arrive des Landes et du bassin d'Arcachon. Environ 10 km de bouchons à l'entrée de l'A10, au nord donc de l'agglomération bordelaise. Et circulation en accordéon sur à peu près toute l'autoroute. Mais c'est vraiment l'arrivée en Île-de-France qui va vous faire lâcher l'accélérateur. Gros ralentissement aux abords de la barrière de péage de Saint-Arnaud. 12 km de bouchons dus en partie à un accident sur l'échangeur au niveau de Saint-Jean-de-Beauregard au sud de Palaiseau. Une voie est neutralisée depuis 17h. Et dans la vallée du Rhône, qui était en rouge tout l'après-midi, circulation dense toujours depuis la Méditerranée sur la 7 en direction de Lyon, puis sur la 6 vers Paris. Mais Nîmes, Avignon et Aix-en-Provence respirent mieux ce soir. Encore une fois, si vous êtes au volant, patience, vous allez vers du mieux. La carte se verdit d'heure en heure. Demain, drapeau orange sur la route des retours.
Merci Marion Gauthier. Pour ceux qui font le chemin en sens inverse, c'est-à-dire direction les vacances, eh bien, on va voir la météo des plages. Valérie Darmon, c'est pas encore top.
Attention au vent un petit peu désagréable qui se renforce sur le pourtour méditerranéen avec des valeurs sur vos plages aux alentours de 33 degrés. Du Canet par exemple jusqu'à Menton en passant par Marseille, une eau entre 23 et 26 degrés qui ne se rafraîchit pas contrairement aux températures. Un peu moins de pluie le long de la Manche et le long de la mer du Nord avec des valeurs aux alentours de 20 degrés. Une eau à peu près à même température et toujours un petit peu agitée même si le vent a tendance à faiblir aux alentours de 50 km/h en rafale dans sa partie nord et un peu plus de soleil que vous retrouvez aussi sur vos plages du nord-ouest. Sur la façade atlantique, c'est aussi un petit peu plus lumineux à l'image de la France en entier avec des valeurs entre 20 et 23 degrés et un océan relativement calme entre 19 et 24, 24 pour la côte basque.
Merci Valérie Darmon.
Et votre grand journal du soir se poursuit dans un instant avec vous Chloé Triomphe. On va parler de la chasse aux nuisances sonores. À tout de suite. 19h30 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir, Chloé Triomphe.
D'abord, Élise Dangean pour l'essentiel de l'actualité.
Le plan de relance du gouvernement est prêt, mais il ne sera pas dévoilé avant début septembre. L'exécutif se laisse une semaine de plus, non pas pour le peaufiner, mais pour se concentrer sur la rentrée dans les écoles et les entreprises, où le port du masque sera rendu obligatoire sur fond de reprise épidémique. Reprise de l'épidémie aussi en Italie, qui pour la première fois depuis le mois de mai vient de dépasser la barre des 1000 cas par jour. Parmi les régions les plus touchées, celle de Rome, qui enregistre en 24 heures un nombre record de nouveaux cas liés au retour de vacances. Dans le monde, la pandémie a fait plus de 800 000 morts. Brève rencontre au Mali entre la délégation ouest-africaine arrivée cet après-midi et les militaires qui ont pris le pouvoir mardi dernier. Une trentaine de minutes, pas de déclaration à la sortie. Les représentants de la CDAO doivent désormais rencontrer le Premier ministre et d'autres hauts responsables civils aux mains de la junte avant une entrevue avec le président déchu, Ibrahim Boubacar Keïta. Un match exceptionnel. Dispositif exceptionnel, l'avenue des Champs-Élysées sera fermée aux automobilistes demain soir en marge de la finale de Ligue des Champions Bayern-PSG. Les supporters devront respecter la distanciation sociale, porter leur masque et se disperser dans les deux heures suivant le match. 3000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés pour l'occasion. Les Verts lancent un appel au rassemblement en marge de leur journée d'été à Pantin. Un appel qui s'adresse à toutes les forces vives. Objectif constitutionnel. Constituer des listes communes pour les régionales et les départementales de 2021. Les têtes de liste devraient être connues en septembre et validées le mois suivant, selon Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts.
Et le prochain point sur l'actualité, ce sera avec vous, Élise Dangean, tout à l'heure à partir de 20h.
Et en attendant, votre grand journal du soir se poursuit avec des initiatives pour réduire les nuisances sonores.
Comme une nostalgie du silence du confinement avec le bruit du vent dans les feuilles, celui des oiseaux plus présent que celui des transports. C'est pas un délire de poète, puisqu'en fait, ça fait longtemps que certains travaillent sur ce sujet des nuisances sonores, qui est une source de récrimination des Français. On va en parler avec deux invités ce soir. François Astorg, le maire d'Annecy, qui a carrément sensibilisé sa police municipale à la traque aux fauteurs, non de troubles, mais de bruit. Bonsoir, monsieur le maire.
Bonsoir.
Et Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région Île-de-France, chargé de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui a déjà installé des capteurs anti-bruit dans la région. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors d'abord direction Annecy. Donc Annecy en Haute-Savoie, ses montagnes, son lac, on imagine sa tranquillité, ça fait un peu image d'Épinal. Et pourtant, depuis la fin du confinement, les habitants entendent plus ou sont peut-être plus sensibles au bruit désagréable. Monsieur le maire, est-ce que vous avez eu des plaintes? Est-ce que c'est ça qui vous a donné l'idée de traquer les fauteurs de bruit?
Écoutez, oui, d'une certaine manière, je crois qu'on a tous vécu ça lors des 55 jours de confinement. Il suffisait d'ouvrir sa fenêtre. Moi, je vis en pleine ville et lors du confinement, j'ai moi-même constaté que les nuisances sonores étaient parfois beaucoup plus importantes que l'on ne l'imaginait. Vous savez, il y a un proverbe japonais qui dit « Seuls les poissons ne savent pas qu'ils sont dans l'eau ». Quand on a l'habitude du bruit, on ne se rend pas compte. Mais en revanche, ça heurte beaucoup de personnes. Et nous, ce que l'on constate, c'est qu'en fait, il y a deux grandes sources de bruit. Il y a d'un côté les bruits de la circulation, et ça c'est de l'ordre du routier, c'est pour ça, et ça c'est traité par notre police municipale. Et puis il y a le bruit qui est lié aux rassemblements familiaux ou aux fêtes qui se font. On sait que aujourd'hui les jeunes n'ont pas la possibilité d'aller en boîte de nuit, donc c'est des rassemblements, il y a beaucoup de bruit. Donc il y a eu des plaintes, mais pas que des plaintes. Beaucoup de gens se disent, est-ce qu'on pourrait pas améliorer la qualité de vie? Donc pour ça, nous ce que l'on pense, c'est qu'il faut travailler par étapes. Sur le premier volet, le bruit routier, c'est traité par notre police municipale et on a un contrôle en tribut qui se fait par les brigades moto et ça se fait à l'oreille. Alors vous savez, il y a des sonomètres, mais le problème des sonomètres, c'est que on a des problèmes d'étalonnage et nos policiers à la police municipale sont formés à l'oreille pour faire des verbalisations.
Oui, donc parce qu'on ne sait pas trop en fait, mais il y a un article du code de la route qui stipule qu'un véhicule à moteur ne doit pas émettre de bruit susceptible de causer une gêne aux autres usagers et aux habitants. C'est ça qui leur permet de verbaliser à vos policiers municipaux ?
C'est ça qui leur permet de verbaliser, mais il faut qu'ils soient aussi formés à l'écoute de ce bruit pour savoir si les personnes sont au-dessus ou en dessous. Et ce que l'on constate, c'est qu'en général, les bruits sont liés très souvent à la vitesse. On a eu près de 150 verbalisations sur les questions de bruit et de vitesse. Donc, pour nous, c'est un sujet important. Les citoyens reviennent. Et quel impact que ça a ? Ben, l'impact, c'est que c'est un impact sur la santé, c'est du stress. Mais c'est aussi, le bruit, c'est aussi un lien avec l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Vous savez, je suis un élu écologiste et la question de verdissement va se poser très rapidement suite à notre élection. Et quand on va commencer à verdir la ville, ça va aussi participer à réduire le bruit. Donc ça a effectivement un rapport à la mobilité.
Alors, vous parlez de la vitesse, excusez-moi, mais il n'y a peut-être pas que la vitesse, il y a aussi des comportements, par exemple faire pétarader son moteur au démarrage, il y a aussi le fait de débrider ses véhicules, c'est aussi une question de responsabilité personnelle peut-être.
Alors, il y a une question de responsabilité personnelle et c'est pour ça qu'on envisage dès cet automne. Mais en général, l'automne et l'hiver sont moins sujets au bruit que l'été. Mais il va falloir qu'on fasse une campagne de sensibilisation et associé à ça, on va créer un poste de chargé de mission du bruit qui, lui, va travailler là-dessus. Mais vous avez raison, il y a que ce soit des jeunes, mais pas que des jeunes, il y a aussi des moins jeunes qui ont des grosses motos et qui prennent un malin plaisir à faire tourner, à faire vrombir leur moteur. Et c'est pour ça que notre police municipale tourne, ce sont des motards, ils tournent et ils verbalisent quand c'est nécessaire.
C'est combien ?
On essaie toujours d'abord... Alors, quand c'est une amende pour le bruit, c'est 68 euros et quand c'est lié à la vitesse, c'est 135 euros.
Quand même.
Et donc souvent, on voit, c'est sur des grands axes routiers qu'on peut avoir en ville, très souvent, les chiffres nous le montrent, je ne l'ai plus en tête, mais très souvent, le bruit est associé à la vitesse. Mais comme vous le dites, il y a aussi des gens qui ont des comportements un petit peu, on va dire, frimeurs, en faisant vrombir son moteur. Mais on a ça aussi quand les jeunes qui s'ennuient un peu, ils ne peuvent pas sortir, etc., ils se font des rassemblements, ils se font des rodéos. personne n'apprécie. Et là, seule la police peut agir. La prévention n'est pas suffisante.
Merci. Alors maintenant, on va tourner notre micro vers Jean-Philippe Dugoin-Clément, qui est vice-président de la région Île-de-France, chargé de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Alors, Île-de-France, on imagine tout de suite le tableau noir, densité de population, densité des transports. Et vous, vous avez décidé d'installer des capteurs de bruit. Alors, il y en a combien, depuis quand et à terme, est-ce qu'il y en aura de plus en plus? À quoi ça sert?
Oui, bien sûr. Si vous voulez, une commune va y avoir des pouvoirs de police d'un maire, comme l'évoquait le maire d'Annecy. Une région, c'est pas des pouvoirs qu'on a. Ce sur quoi on peut travailler, c'est sur la connaissance du bruit, sur le fait d'analyser d'où vient le bruit pour pouvoir le traiter. Et donc, avec une association, un organisme régional qui s'appelle Bruit Tarif, on a été amené à créer ce qu'on a appelé des capteurs méduses, parce qu'ils ont une forme de méduse, qui ont reçu le prix Décibel d'or du Conseil national du bruit l'année dernière, en 2019, qui ont été brevetés auprès de l'INPI. Et donc, c'est des capteurs qui permettent d'isoler la nature du bruit et donc d'objectiver la prise de température. C'est une sorte de thermomètre en temps réel. On en a aujourd'hui déployé 70 en Île-de-France. L'objectif pour nous, c'est de doubler, tripler le nombre et également d'en massifier la production pour pouvoir permettre à d'autres collectivités ou des entreprises intéressées d'aller en acheter. Aujourd'hui, on a énormément ciblé sur ce que disait Monsieur le maire. On en a une quarantaine dans les zones de Paris où on a une vie nocturne, où on a de la fête, des sorties, parce que ça fait partie des grandes pôles de nuisances sonores. Et puis, on en a aussi beaucoup d'adaptés au niveau des axes de circulation, que ce soit les grandes pénétrantes autoroutières, mais on a aussi en Île-de-France des zones aéroportuaires qui constituent des pôles de bruit particulièrement élevés. Et puis il y a un autre point qui est important quand on parle du bruit, c'est les secteurs de chantier. Actuellement, on accompagne sur les mesures de bruit les zones de chantier des gares du Grand Paris Express, parce que c'est aussi pendant plusieurs mois ou plusieurs années des facteurs de nuisance pour les Franciliens. Vous savez, en Île-de-France, les deux plus grands facteurs de préoccupation environnementale des Franciliens, c'est la pollution de l'air et c'est la pollution sonore du fait du bruit.
Donc, d'où l'importance de cette étude, enfin de cette mesure du bruit dans la région.
Bien sûr, et puis ça permet de donner des résultats concrets quand on fait des actions, quand on porte des actions, quand une mairie, un département, une agglomération va le faire. Par exemple, on a travaillé sur des couches de revêtement test pour limiter le bruit des grandes pénétrantes autoroutières à 4 ou à 6. Et les mesures qu'on a fait nous ont permis de voir qu'on gagnait entre 4,9 à 7,2 décibels en moyenne sur 24 heures, c'est-à-dire quelque chose qui correspond à une réduction de la circulation allant de 68 à 81%. Donc, travailler sur le comportement de l'automobiliste, c'est une chose. Travailler sur la typologie du véhicule employé selon qu'on est sur de l'électrique ou du thermique, le niveau de production sonore n'est absolument pas le même. Mais travailler également sur la matière, la typologie de revêtement, eh bien, c'est des choses qu'on peut suivre, qu'on peut objectiver. Et l'un des intérêts de ces capteurs, c'est que ça permet également de dissocier la nature des bruits.
C'est-à-dire qu'on peut différencier un bruit de véhicule, un bruit de foule.
Voilà, et c'est extrêmement intéressant quand on est dans des quartiers denses, par exemple dans Paris où il y a une vie festive, en mesurant qu'est-ce qui vient de la part des personnes qui sortent de restaurants, qui sont devant des bars, de ce qui va relever de la circulation routière, ou quand on est dans des secteurs de couloirs aériens, qu'est-ce qui vient de l'aérien ou qu'est-ce qui va venir du chantier qui est à côté ou de l'axe routier qui est à proximité. Et donc, à partir du moment où on a une photographie de la nature du bruit, bah, ça permet de traiter principalement la cause et derrière d'essayer de mesurer est-ce que ce qui a été fait a été efficace, non efficace,
ou est-ce qu'il faut faire davantage,
réel ou marginal. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région Île-de-France. Merci aussi François Astorgue, maire d'Annecy, de nous avoir sensibilisés ce soir aux nuisances sonores que vous cherchez tous les deux à combattre.
Merci.
Merci à vous.
Votre grand journal d'histoire continue avec Chloé Triomphe et on s'évade jusqu'à 20h. À tout de suite. 19h42 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir avec vos Chloé Triomphe.
Et comme chaque week-end, des petits coins de France à découvrir sous le regard d'étrangers amoureux de leur séjour dans l'Hexagone. Crise sanitaire oblige, à défaut de pouvoir revenir cette année, eh bien ils vous ont raconté leurs souvenirs de France. Bonsoir Gwendoline de Bonneau.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, c'est Saïd Mahmoud qui nous raconte ses souvenirs. C'est un Syrien qui est scénariste, réalisateur, écrivain. Il vient en France tous les ans depuis 2015. Un premier voyage loin d'être banal.
Alors effectivement, lorsqu'il atterrit à Paris pour la première fois, Saïd accompagne Jinan, qui est une jeune yézidi qui a été réduite en esclavage par l'État islamique. Elle est invitée en France, à Paris, à l'occasion d'un livre sur son histoire, et Saïd est son interprète.
J'ai passé avec elle 15 jours à Paris, où nous avons rencontré le président François Hollande à l'époque, et beaucoup de ministres, de responsables, chaque jour jusqu'à minuit. Alors j'ai dit, ça fait des années, moi je vis entre Irak et Syrie, et j'ai vu des guerres, mais je pense que je vais mourir à cause de la fatigue sur une terrasse à Paris finalement.
Alors, première fois en France et vous allez tout de suite à l'Élysée.
Bah, c'était particulier, oui. La première fois j'ai rencontré le président, la deuxième, je ne sais pas.
Qu'est-ce que vous avez ressenti lors de ce premier séjour ici ?
Moi, j'ai déjà étudié la littérature française à Damas, à l'université de Damas. Parce que avant d'aller à l'université, j'ai lu les romans de Victor Hugo ou Albert Camus. Alors pour moi, il n'y avait pas ce choc culturel. Au contraire, j'ai senti que finalement, je suis dans ma ville, Paris. J'ai appris comment prendre le métro le premier jour quand j'étais à Paris. Et même, j'ai aidé deux Parisiens à trouver leur chemin.
Alors, qu'est-ce qui vous manque et qu'est-ce qui ne vous manque pas de la France ?
Ce qui me manque le moins, c'est le métro. j'aime pas le métro et les tunnels. Surtout qu'il n'y a pas de paysage. Tu es coincé dans le métro et qui marche très vite. Et il n'y a que le mur qui passe devant tes yeux. Et ça, c'est frustrant pour moi. Et ce qui me manque le plus, c'est passer une soirée sur une terrasse à Paris avec mes potes, avec mes amis.
Saïd, vous avez voyagé hors de Paris et vos amis ont une maison dans le nord où vous adorez aller.
Bien sûr. Il y a une cabane au nord de la France, pas loin de... C'est sur la mer, dans un petit village à côté de Boulogne-sur-Mer. C'est une super cabane en bois. Et même, ils ont appelé la cabane pour moi. Ils ont donné un nom qui est Rojava-sur-Mer.
Alors, le Rojava pour les Kurdes, hein, c'est le nord de la Syrie.
Ouais, ouais. Parce que je viens de Rojava. Alors je passe des chouettes moments là-bas, pendant les vacances avec eux, sur la plage, à Rojava-sur-Mer. Sinon, je vais à Lille, j'ai des amis à Lille, j'ai des amis à Avignon. C'est super chouette pendant le festival du théâtre. J'étais là-bas plusieurs fois pendant le festival. Ouais, c'est le paradis. Je suis là-bas, je vais chez des amis à moi, un couple syrien qui sont réfugiés là-bas, un ami poète et sa femme. Je passe le temps sur leur terrasse, juste sur la terrasse de la maison. Tu peux voir des spectacles dans la rue, tu peux voir tout le festival. Quoi. C'est super chouette.
Témoignage recueilli par Gwendoline Debono qui nous fera découvrir la France demain par les yeux d'une Vénézuélienne.
Et on continue de s'évader au bout du chemin. Chloé Triomphe, Vanessa Zah.
Vanessa, comme chaque week-end, on part s'évader au bout du chemin, découvrir des pépites à côté de chez nous. Et ce soir, on prend la direction de l'Allier.
C'est ça, Chloé, mais loin de l'image d'Épinal de l'Auvergne. Vous savez que ces paysages bien verts et ces monts. Nous, aujourd'hui, on va y mettre un petit grain de folie, un grain de sel en empruntant la route des spots insolites. Ceux qui vous dépaysent à 100%, tellement ils sont inattendus, voire carrément improbables. Comme Noyon d'Allier, ce village en plein cœur du bocage bourbonnais, qui, si vous écoutez Caroline Guyenne du restaurant Le Petit d'Asie, vous interpelle dès votre arrivée.
Vous voyez une tête de dragon qui est très étonnant, qui vous accueille à l'entrée du village. Et puis, à 300 mètres, là, vous avez une magnifique pagode où vous voyez un grand Bouddha, donc géant, dans le jardin, entouré d'autres statues de Bouddha. Une pagode qui fait venir énormément de monde, donc d'ici, de l'Allier et ailleurs. Il y en a qui viennent tous les ans pour visiter, qu'ils soient bouddhistes, croyants, sympathisants ou pas. C'est un lieu serein et tranquille, donc les gens adorent venir.
Alors, un Bouddha géant, une pagode, mais comment est-ce que cette touche asiatique est arrivée jusque-là ?
Eh bien, par des familles franco-indo-chinoises qui ont été rapatriées dans les années 50 après la défaite de Dien Bien Phu. Et c'est à Noyon, dans ce village minier, qu'on a décidé de les accueillir. Ce village est devenu en quelque sorte un petit Vietnam. Vous êtes vraiment dépaysés. Si vous avez encore envie de voyager au bout du monde, mais sans quitter la France, vous pouvez rester dans l'Allier et faire un aller-retour pour l'Afrique australe. Vous approchez d'antilopes, d'oryx ou d'autres ruche en poussant les barrières du PAL à Saint-Pourçain-sur-Besbre. Le PAL, c'est un parc animalier, alors responsable, engagé, qui fait 50 hectares. Et son plus, c'est que vous pouvez y dormir. Il existe une trentaine de lodges sur pilotis, ce qui vous permet d'observer la faune évoluer tout en les respectant et vous en toute sécurité.
C'est vraiment original. Et en tout cas, si on n'est pas très branché nature, vous avez aussi repéré d'autres spots des paysans en ville cette fois.
Et oui, à Moulins. Moulins abrite des collections extravagantes, insolites. Je ne vais pas pouvoir tous les cités, évidemment. Je vous donne mes coups de cœur. La maison Mantin, c'est un riche bourgeois qui se fait construire au 19e siècle une demeure totalement cosmopolite. Et dans son testament, il demande à ce que sa maison soit ouverte au public 100 ans après sa mort, pour qu'un homme du 20e siècle découvre son univers. Et donc, c'est chose faite. C'est un vrai cabinet de curiosité. Des serpents conservés dans du formol, des statues de Bouddha, on y revient, des animaux empaillés, des vitraux codés d'idéogrammes. Bref, c'est une caverne d'Ali Baba. Et puis, mon deuxième coup de cœur, Chloé, c'est à quelques encablures de Moulins, sur la commune de Lurcy-Lévis. On est en pleine verdure, ça s'appelle le Street Art City. C'est un ancien centre de formation des PTT qu'un couple de mécènes a décidé de transformer en lieu de création, d'exposition, une résidence pour les artistes. Et c'est dédié au street art. Donc vous déambulez au milieu de fresques monumentales, bien colorées, qui ont été peintes sur 22 000 mètres carrés de murs vierges. C'est la nouvelle mecque du graffiti à ciel ouvert en France. C'est un peu comme Wynwood Walls à Miami, pour ceux qui connaissent. Et le clou, c'est que vous pouvez dormir dans l'une des 128 chambres qui ont été créées dans l'un des 13 bâtiments. Elles ont toutes été décorées par 128 artistes. Son nom, évidemment, Chloé, c'est l'hôtel
128.
Et oui.
Voilà. Vous avez une dernière petite adresse, peut-être un peu plus classique?
Alors oui, mais toujours avec une touche insolite, l'hôtel de Paris. Figurez-vous que dans le spa qui est installé dans les sous-sols de la chapelle, il y a un flotarium, un bassin d'eau salée, autant que celle de la mer Morte. Et y flotter 20 minutes offrirait en termes de récupération l'équivalent d'une nuit de sommeil. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Bah écoutez, j'y fonce. Merci Vanessa Zah, on vous retrouve demain.
Dans un instant, la suite de votre grand journal avec une nouvelle recette de chef. À tout de suite. 19h52 sur Europe 1, c'est l'heure de passer en cuisine dans votre grand journal du soir.
Passion, boulette, ça tient en deux mots, c'est tellement bon, c'est facile à varier, facile à réaliser aussi. Voici une recette de chef qui va nous faire voyager avec des saveurs d'Asie ce soir. Étape et dégustation avec Pierre Herbulot pour Europe 1.
C'est l'histoire d'un poulet qui se balade en Asie et qui revient en France sous forme de brochette de boulettes laquée. On va voir si ça lui réussit. En tout cas, cette cuisine d'influence asiatique, c'est le principe du restaurant Brigade du Tigre, le restaurant de Galien Emery qui ouvre au mois de septembre. Galien, pour revenir à la recette, par quoi on commence pour nos brochettes de boulettes?
Pour commencer, on va commencer par hacher la volaille.
On est sur un blanc de volaille?
Exactement, sur un blanc de volaille. On va le passer au mixeur. Là, le but, c'est vraiment de pas trop le mixer non plus pour qu'on retrouve quand même des petits morceaux et que le poulet garde sa jutosité.
Là, ah oui, trois coups de mixeur et ça suffit.
On vérifie. Ouais, je pense que c'est pas mal mixé, mais c'est pas non plus haché menu. Quoi.
On voit des morceaux quoi.
On va ajouter de l'ail, du gingembre, de la cive, un petit peu de coriandre, la chapelure évidemment. Et puis aussi quelques échalotes cisées finement.
Alors on mélange un peu.
Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de sésame. Comme tu vois, la farce, elle est bien liée.
Elle est magnifique.
Ouais. Donc avec ça, on va mettre des gants, on va faire des petites boulettes qu'on va piquer et qu'on va faire griller à la poêle ici.
Très bien.
L'avantage de la volaille, c'est que ça nous fait vraiment une belle croûte bien dorée. On va se les sortir, on va les laquer et on va les remettre un petit coup à la poêle pour la caramélisation.
Alors, on avait promis de l'Asie, il y en a un petit peu dans la farce des boulettes, mais là... La cage par-dessus?
C'est le principe de réduction du caramel. On prend du miel, on prend de la sauce soja, un petit peu de vin blanc. On va juste faire réduire ça jusqu'à ce que ça commence à buller. Et on va avoir une texture sirupeuse, un petit peu
là, c'est
caramel laqué. On va retrouver la texture du miel. La petite coloration supplémentaire, vraiment brève. Hein, mais juste pour que le laquage colle bien dessus.
On y va, Galien? On goûte?
On y va, ouais.
Allez. C'est incroyable parce que ça me rappelle le goût des nems.
En fait, t'es vraiment sur le même type de farce. Où tu retrouves plein de goûts, du gingembre, du sésame, de la cive.
Puis la coriandre aussi apporte vachement de fraîcheur.
Tout ça, c'est vraiment les goûts qu'on aime et les goûts qu'on va retrouver chez Brigade du Tigre.
Et franchement, c'est délicieux.
Ouais, exactement.
Merci beaucoup, Galien Emery.
Merci encore à toi et puis à bientôt autour d'une brochette.
Et pour compléter en tout cas ces conseils très gourmands de Pierre Herbulot, eh bien nous sommes en ligne ce soir avec Nicolas Thomas, chef du restaurant Étoilé La Promenade à Verfeil près de Toulouse. Vous avez une étoile. Bonsoir Nicolas Thomas.
Bonsoir.
Bon, alors les boulettes, c'est quand même une source inépuisable d'inspiration. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller de simple et de réalisable aussi?
Alors une petite idée un peu estivale et extrêmement gourmande. Moi, je vais partir sur du veau parce que c'est un produit qu'on travaille pas souvent sous cette forme-là. Vous pouvez demander à votre boucher de hacher du veau ou alors vous le passez éventuellement un petit peu au mixeur par petit à coup pour avoir pas quelque chose de complètement mixé mais avec des petits morceaux. Le problème du veau en général, c'est que c'est souvent un petit peu sec parce qu'on va travailler sur un morceau maigre qu'on pourrait utiliser pour de l'escalope. Donc à côté, ce qui va être magique, c'est de se faire une petite poêlée d'épinards avec
épinards frais,
un petit oignon, de l'ail, on va ajouter du gingembre, zeste de citron, le tout sauté à l'huile d'olive assez vivement, et on va mixer ça un tout petit peu avec le veau. Et là, ça va amener l'humidité nécessaire et ramener un petit peu l'onctuosité qui peut manquer de temps en temps à cette viande qui est pourtant très très bonne et très délicate. Ça peut s'adapter sur d'autres saisons. On peut mettre un petit peu de champignons dedans, mais toujours mettre un petit peu de verdure, des petites herbes fraîches aussi, un peu de parmesan, de l'anchois. Je rebondis au fur et à mesure, voilà, un petit peu d'anchois au cœur de la boulette, là, mixé avec la petite préparation pour amener de l'onctuosité, ce sera magnifique.
Il n'y a pas besoin de faire une petite sauce à côté à base de yaourt ou quelque chose comme ça?
Si, voilà, j'y venais. Là, ce qui va être très agréable, c'est de prendre un yaourt de brebis, par exemple, quelque chose qui a quand même du corps, du tempérament. On l'assaisonne simplement avec un trait de citron, huile d'olive et un petit peu de fleur de sel. On mélange bien et là, le côté un peu aigre avec le citron sur le yaourt va ramener beaucoup de vivacité. Et pour que ce soit super gourmand, ce que je vous propose, c'est de laisser les boulettes que vous façonnez à la main aller 30 minutes au congélateur et après, vous les panez.
Dans la chapelure,
voilà. Alors, d'abord dans la farine, ensuite dans l'œuf battu, ensuite chapelure. On revient dans l'œuf, j'attends, et encore chapelure. Et là, on frit. Du coup, la cuisson est très courte, c'est super croustillant. On a le veau rose à l'intérieur et il n'y a plus qu'à tremper avec gourmandise dans ce petit yaourt saisonné.
Merci beaucoup, Nicolas Thomas, chef du restaurant étoilé La Promenade. C'est à Verfeuil, près de Toulouse. Merci pour cette recette de boulettes de veau.
C'était votre grand journal du soir, présenté par Chloé Triomphe. Merci Chloé.
Merci, et puis on se retrouve demain. Merci de votre fidélité.